7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bon réveil. Nous sommes le lundi 27 mai. Le Rassemblement National vainqueur des européennes, il devance La République En Marche. Les écologistes créent la surprise. À droite, Les Républicains s'effondrent. À gauche, La France Insoumise dégringole, rattrapée par le Parti Socialiste. Résultat, reportage et analyse dès 7h dans le journal d'Hélène Zélani. Le Rassemblement National en tête, quelle suite pour Marine Le Pen? Quant au gouvernement, il veut poursuivre ses réformes. En a-t-il les moyens? À 7h40, le duo Apathy-Tarlé. En Europe, les populistes confirment leur poussée, mais pas de raz-de-marée. Vont-ils réussir à s'unir? C'est tout l'enjeu des semaines qui viennent. À 7h45, je reçois le politologue spécialiste des extrêmes droites européennes, Erwan Lecoeur. Dans le reste de l'actualité, mariage en vue entre Renault et Fiat Chrysler. La fusion donnerait naissance au premier groupe automobile mondial. Les informations exclusives de Nicolas Barré à 7h15. Et puis, le grand retour de Roger Federer à Roland-Garros. À 8h35, notre nouveau rendez-vous chaque matin, le journal de Roland-Garros avec Corinne Boulou. Voilà pour le programme. J'espère que vous commencez bien la semaine. On vous accompagne jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Excellent début de semaine à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h. Bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et le journal de 7h est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le Rassemblement National qui s'impose aux européennes, mais d'une courte tête devant la liste de la majorité. Nous irons dans le Pas-de-Calais où c'est un plébiscite pour la liste de Jordan Bardella. Parmi les enseignements du scrutin, le très beau succès des Verts et la débâcle des Républicains.
8h15, Nathalie Loiseau, tête de liste En Marche, sera l'invitée d'Audrey Crespo-Mara.
Et puis nous reviendrons sur une affaire qui avait défrayé la chronique il y a 22 ans et qui arrive devant les assises de Paris cet après-midi, le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier.
Europe 1.
À 23 ans, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, est donc le grand gagnant de la soirée. Avec un peu plus de 23% des voix, il offre une revanche à Marine Le Pen 2 ans après son échec à la présidentielle. Elle estime d'ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée. Direction Bruel à Bussière, dans le Pas-de-Calais, près de Béthune, où plusieurs militants s'étaient retrouvés pour suivre les résultats. Kevin Tullier les a suivis en plein cœur de ce bassin minier où le RN enregistre de très gros scores.
Rassemblés dans une petite salle au cœur d'une ancienne cité minière, les militants RN venus de toute la région n'ont jamais vraiment douté. Un soir de fête et plus qu'une victoire aux européennes, c'est le duel gagné contre Emmanuel Macron qui enchante cette militante.
Ah, c'est super, un résultat formidable. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est un barrage à Macron en général. Beaucoup de gens nous ont rejoints alors qu'ils n'étaient pas forcément pour nous. Et là aujourd'hui ils nous ont rejoints parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la meilleure des voix.
Le Rassemblement National qui confirme son ancrage dans le bassin minier. 56% des votes à Hénin-Beaumont, 41% à Lens. Sur le territoire, le parti progresse encore par rapport aux dernières élections européennes. De quoi satisfaire Florence.
On est dans un bassin minier qui a déjà connu pas mal de problèmes de par le passé. Et donc, les gens en ont plus que ras-le-bol de la politique nationale. Le résultat est là. Donc maintenant, au président Macron de se remettre en question également. Il n'a pas écouté son peuple. Le peuple s'est exprimé. Il n'est plus crédible de toute façon.
Des militants remontés à bloc avec en tête déjà les prochaines échéances et les municipales de 2020.
Kevin Tullier dans le Pas-de-Calais pour Europe 1.
22,3%, environ un point de moins que le Rassemblement National. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque en tous les cas, Hélène, un score honorable.
Oui, en soulignant que le contexte national était difficile avec la crise des Gilets jaunes. Et pourtant, Édouard Philippe n'hésite pas à le reconnaître, c'est bien une défaite de la majorité.
Pour ma part, j'accueille ces résultats avec humilité. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagné. Avec humilité, mais aussi avec beaucoup de détermination. Dès demain, je serai à pied d'œuvre pour poursuivre le projet du président et de la majorité.
Voilà le Premier ministre Édouard Philippe. Emmanuel Macron, qui s'était beaucoup impliqué dans la campagne, va-t-il être obligé de revoir sa politique? La réponse est non, Jean-Rémy Baudeau.
Il n'y a pas de crise politique, clamait hier soir une ministre de premier plan. À l'Élysée comme au gouvernement, on explique, En Marche numéro 2, d'accord, mais il n'y a pas eu de décrochage. Et les uns après les autres, conseillers et proches du président Martel, pas de changement de cap, pas de pause, on continue et on accélère. Dans l'entourage du chef de l'État, on explique que les premiers résultats des réformes macronistes sont visibles, sur le chômage, la croissance ou le pouvoir d'achat, l'heure ne serait donc pas à relâcher la pression. Montrer les effets de sa politique obsède le président, confie une proche du chef de l'État. C'est pourquoi Emmanuel Macron veut maintenir sa trajectoire et aller plus vite sur certains dossiers, notamment sur l'écologie. Ce sera l'un des piliers de ces prochains mois, promet un proche du Premier ministre. Édouard Philippe, dont le poste ne serait pas en danger, les deux hommes se font toujours une confiance mutuelle, souffle un visiteur régulier. Ceux qui espéraient un vaste remaniement après les européennes seront probablement déçus.
Jean-Rémy Baudeau, La République En Marche et le RN auront le même nombre d'eurodéputés, 23.
Et la tête de liste de la majorité, Nathalie Loiseau, répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
Europe 1, il est 7h05.
Chez les Verts, on a sablé le champagne hier soir.
Oui, plus de 13% pour la liste de Yannick Jadot, score que les sondages n'avaient pas vu venir. Il faut dire que le thème de la transition écologique avait été très présent dans les programmes et pendant toute la campagne. Michel a 68 ans, électrice de gauche. Hier, elle a voté pour la première fois pour Europe Écologie Les Verts. Elle explique pourquoi.
C'est une petite dérive à vrai dire, parce que j'avais voté socialiste pendant très longtemps, La République En Marche aux dernières élections, et là c'est un peu par une certaine déception et aussi une conviction que l'environnement n'était pas bien pris en charge, que j'ai décidé de sauter le pas et de voter vert. Alors c'était dans un contexte d'élection européenne, je ne sais pas encore si je confirmerai ce choix dans une élection nationale, en tout cas ça me paraît important, j'avais l'impression de faire aussi quelque chose pour l'Europe en votant vert.
Un témoignage recueilli par Jiane Bergaoui, 13 sièges pour les Verts, des Verts qui rient et des Républicains qui pleurent. C'est en effet une débâcle pour le parti de Laurent Wauquiez, autour de 8%, pire score de toute l'histoire de la droite. Le dirigeant du parti, la mâchoire crispée, a commencé par s'en prendre à Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement national contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix.
Voilà, 8 élus pour LR. La tête de liste, François-Xavier Bellamy, reconnaît que tout est à reconstruire. En 5e position, les Insoumis, un peu plus de 6%. Jean-Luc Mélenchon, visage sombre, lui aussi reconnaît un score très décevant. Il aura tout de même des eurodéputés, idem pour le PS, qui est également autour de 6%.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec une vision globale de la physionomie du futur Parlement européen. On vous dit tout dans quelques instants. Bon réveil.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Et hier, la participation a été bien meilleure que les sondages ne l'avaient prévu, hein, 50%.
Oui, ça c'est pour la France. Et à l'échelle de l'Union, la participation est aussi en nette hausse. Un Européen sur deux a voté. Mais le nouveau Parlement sera plus fragmenté qu'avant, Isabelle Horry.
Oui, le fait politique le plus important au niveau européen, c'est la fin de la Grande Coalition. Depuis 40 ans, la droite conservatrice et la gauche social-démocrate dominaient l'Assemblée de Strasbourg. Mais ce matin, ces deux familles n'ont plus la majorité à elles seules. Elles ne pourront plus se répartir les postes de pouvoir au niveau de l'Union européenne. Désormais, elles vont devoir compter avec un troisième et peut-être même un quatrième partenaire. À ce jeu, ce sont avant tout les centristes libéraux qui tirent leur épingle du jeu. Ils ont fortement progressé, ils ont plus de 100 sièges. Le groupe que vont rejoindre les élus de la liste Renaissance se retrouve en situation de faiseur de roi. Ils seront incontournables, notamment pour désigner le futur président de la Commission européenne. Les Verts sont aussi bien décidés à se faire entendre, qui ont remporté de belles victoires un peu partout sur le continent. Enfin, bien sûr, les nationalistes sont en nette hausse, plus de 100 sièges, notamment grâce à un résultat spectaculaire de la Ligue en Italie. Mais ça ne suffira pas pour perturber réellement la vie politique européenne.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
L'actualité ce matin, c'est aussi un procès très attendu, celui du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier.
Oui, la femme du producteur de cinéma avait été assassinée en Irlande en 1996. Les Assises de Paris jugent l'unique suspect, Ian Bailey, qui a toujours refusé de collaborer avec la justice française. Chez lui, il a été soupçonné, interrogé, mais jamais poursuivi. C'est pourquoi il n'assistera pas à l'audience cet après-midi, Guillaume Biais.
Une grande maison blanche à l'extrême sud-ouest de l'Irlande, dans un coin de bout du monde battu par les vents. C'est là que Sophie Toscan-Duplantier aimait venir se ressourcer, seule. C'est là qu'elle est retrouvée morte le 23 décembre 1996, sauvagement tuée après s'être débattue. Pas d'ADN, très peu d'indices, mais rapidement pourtant un suspect. Ian Bailey, un voisin, journaliste local, poète à 16 heures, mais surtout un habitué des pubs, qui tout de suite semble en savoir beaucoup sur ce crime et qui présente le lendemain des traces de griffures au visage et sur les bras. Inquiété, mais pas inculpé, en 1997, Ian Bailey clame son innocence sur Europe 1.
Il y a eu tellement de mensonges dans cette affaire, mais pas d'enquête sérieuse côté français. Je sais, les gens ici croient ce qu'ils veulent. Ils ont été abreuvés de mensonges sur ma culpabilité et ça n'est pas rien dans cette affaire.
Faute de preuves, Ian Baillen n'a jamais été poursuivi en Irlande et ne peut plus être interrogé, lui qui aurait pourtant avoué le meurtre à des témoins. Depuis 10 ans, la France réclame son extradition, en vain. La famille de Sophie Toscan-Duplantier doit donc se contenter d'un procès par défaut, en l'absence de l'accusé.
Guillaume Biais, et si Ian Baillen est condamné, la France devrait faire une nouvelle demande d'extradition.
Cela faisait 4 ans que le public de Roland-Garros attendait cela. Hein. C'est le retour de Roger Federer sur le central.
Oui, sous un tonnerre d'applaudissements, le Suisse a battu l'Italien Sonego en 3-7 et cet accueil du public français l'a beaucoup touché.
Il sent que déjà énormément d'encouragement, c'est un peu comme avant une finale. Tu sens que c'est... j'ai manqué au public. Moi aussi, ça m'a beaucoup manqué. Et j'ai énormément apprécié la réception que j'ai reçue aujourd'hui sur le terrain parce que c'est pas normal pour moi. J'espère que ça continuera comme ça. Ouais.
Voilà, Roger Federer au micro Europe 1 de Christophe Lamarck. Il sera de retour hein, sur les cours mercredi. Aujourd'hui, on va suivre côté français Tsonga, Gasquet ou Alizé Cornet. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, vous le savez, à 8h35. Journal de Roland-Garros présenté par Corinne Boulou. On va terminer en un mot avec un exploit, celui du français Simon Pagenaud qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis. Ça faisait un siècle qu'un pilote français n'avait pas gagné sur ce circuit américain.
Le journal de 7h était présenté par la talentueuse Hélène Zélani. Merci Hélène et bonne journée à demain.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Elle est 7h12 et c'est Carole Ferry qui nous embarque avec elle chaque matin cette semaine, Nikos.
Bonjour Carole.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin ?
Mais écoutez, je suis dans la cour du Parlement européen à Strasbourg.
Bah
c'est
oui.
Là, vous savez, que sont votées toutes les directives. Ça va de la fin des sacs plastiques au plafonnement des tarifs téléphoniques. Alors les députés élus hier ne vont pas venir ici tout de suite hein, puisque l'essentiel de la vie politique européenne se passe à Bruxelles. Mmh. Ils viennent en moyenne 4 jours par mois à Strasbourg. C'est la fameuse transhumance de milliers de députés et attachés parlementaires avec des TGV spécialement affrétés. Et à ce moment-là, le Parlement, très calme hein, ce matin, se transforme vraiment en mini-ville, jour et nuit, avec sa banque, sa crèche, sa salle de sport. Le service de restauration de Caroline Prinsen passe, lui, de 23 employés à près de 300.
On a 2 restaurants, 1 self, on a 6 bars, on a les salons privatifs, le salon protocolaire, le salon présidentiel. Donc la tension qu'il peut y avoir dans l'hémicycle, évidemment, on la ressent dans le restaurant aussi. Par exemple, il y a un député qui rentre au restaurant qui dit « je veux pas la table à côté de tel et tel » ou ce genre de choses.
Le Parlement, c'est une petite ville. En fait, est-ce qu'on peut le visiter
Exactement.
Facilement, le Parlement européen ?
Bien sûr, tout le monde peut venir, hein, y compris pendant les sessions parlementaires. Vous avez d'ailleurs beaucoup de scolaires avec un jeu de rôle extrêmement bien fait pour les collégiens et lycéens. Alors, ils se mettent dans la peau d'un député pour voir quelles décisions ils prendraient à leur place. Et c'est vraiment très, très, très bien fait. Et c'était moi-même ma première visite. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est la terrasse. Au 13e étage, je la vois hein, d'en bas. Là. Une immense terrasse en cercle dont la vue résume à elle seule ce qu'est l'Europe. Je vous y emmène avec Luis Martinez-Guilhem, l'un des responsables du Parlement.
Voilà, alors vous pouvez voir ici, je crois que c'est une vue magnifique parce que vous savez toute l'histoire de l'Europe devant vous. C'est-à-dire, si vous regardez vers votre gauche, vous allez voir un pont. Et à droite, vous savez la France et à gauche, vous savez l'Allemagne. Et vous voyez, il n'y a pas de frontière. Vous pouvez aller en Allemagne en tram. Je crois que traverser 2 pays qui ont fait la guerre pendant des années en tram, ça vous montre un peu ce que c'est l'Europe.
Voilà, c'est ça l'Europe, c'est aussi bien sûr
c'est
son jeu de lobbyistes, les manifestations organisées parfois devant le Parlement pour faire pression sur les députés, bien sûr les députés européens. Une vie qui reprendra donc lors de la prochaine session, ce sera le 2 juillet.
Avec les nouveaux députés, merci.
Exactement.
Carole Ferry, à demain, bon courage,
à
bonne
demain.
Journée.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito écho avec vous, Nicolas Barré. On parle de quoi ce matin ? Bonjour.
On parle de mariage, celui qui se profile entre Renault et Fiat Chrysler.
Vous nous expliquerez un peu les modalités de ce mariage. À 7h20, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le projet de loi qui organise la collecte, arrive aujourd'hui au Sénat. Y a-t-il un grand écart entre les promesses de dons et les dons effectifs ? Dossier complet dans Europe 1 va plus loin, dans quelques instants avec Anne-Laure Jumet.
Excellente matinée à tous sur Europe 1, il est 7h15. Il est 7h17, c'est les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Moins d'1% d'écart entre la liste du Rassemblement National qui arrive en tête des européennes et celle de la majorité. Les deux partis auront le même nombre d'élus, à savoir 23 députés au Parlement européen. Avec près de 14%, les Verts arrivent 3e et décrochent 13 sièges. Les Républicains enregistrent le pire score historique de la droite, moins de 9%. Ils auront 8 élus, 6 pour la France Insoumise et le PS. On votait aussi pour les élections municipales à Barcelone, le camouflet pour Manuel Valls qui n'arrive que 4e.
Europe 1. Économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec la Banque Tarnot. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Renault réunit ce matin un conseil d'administration très important avec au menu un projet qui vise à créer le premier groupe automobile mondial.
Oui, ce projet audacieux consiste à marier Renault et Fiat Chrysler pour créer un groupe disposant de positions fortes sur tous les grands marchés, des États-Unis avec Chrysler, jusqu'en Asie avec Nissan et Mitsubishi qui sont les partenaires de Renault au Japon. Ces constructeurs ensemble produiraient une quinzaine de millions de véhicules. Volkswagen et Toyota sont autour de 10 millions pour vous situer les idées. Un tel projet, vous l'imaginez, peut buter sur de multiples obstacles, ça n'est donc pas fait. L'un des points clés dans ce genre d'affaires, ce sont les modalités de la fusion.
Ouais, c'est-à-dire qui va diriger, qui va contrôler le capital, en gros, c'est ça?
Exactement. Alors, qui dirige? Ce pourrait être Jean-Dominique Senard, le président de Renault, avec un représentant de la famille Agnelli à la présidence de l'ensemble. Et qui contrôle le capital? Là, la famille Agnelli possède 29% de Fiat Chrysler. Elle deviendrait donc le premier actionnaire du nouveau groupe devant l'État français qui possède 15% de Renault. Il y aura donc des équilibres subtils à trouver, vous voyez, pour apaiser la crainte qui risque de surgir côté français d'une prise de contrôle rampante de Renault par Fiat.
Mais Nicolas Barré, si le projet aboutit, que devient l'alliance entre Renault et Nissan qui s'est gravement détériorée ces derniers mois?
Alors oui, c'est une question majeure effectivement. Jean-Dominique Senard, le président de Renault, va donc se rendre à Tokyo dès ce début de semaine pour expliquer ce projet de fusion à des dirigeants de Nissan qui n'étaient pas dans la boucle jusqu'à présent. L'alliance Renault-Nissan, vous avez raison de le dire, a du plomb dans l'aile depuis l'arrestation de Carlos Ghosn. Elle doit être refondée sur de nouvelles bases. Évidemment, si Renault entre-temps fusionne avec Fiat Chrysler, ça change les rapports de force avec le japonais. Reste que de chaque côté, on peut trouver beaucoup d'avantages à cette alliance élargie, accès à plus de marchés, accélération dans l'électrique, investissement en commun. Sur le papier, le projet offre de grands bénéfices. Ensuite, eh bien, tout sera question d'exécution. Les risques de dérapage sont toujours multiples dans ce genre d'histoire.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nico Saliagas. Il est 7h20, Europe 1 va plus loin. Plus d'un mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, on fait le point ce matin sur les dons pour la reconstruction, alors que le projet de loi organisant justement la collecte arrive aujourd'hui au Sénat.
Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Il y a 15 jours, la Fondation du patrimoine a décidé de stopper la collecte pour Notre-Dame. Une trahison, selon le ministre de la Culture, Franck Riester. Mais est-ce que cette annonce a porté un coup à la collecte en général?
Alors non, on ne peut pas dire ça, car le flux des dons commençait de toute façon à ralentir. C'est habituel, plus d'un mois après une catastrophe, les experts de la solidarité le savent bien. Et pour ceux qui souhaitent encore donner, il reste 3 organismes pour le faire. Ce que craint en fait l'État, c'est que le compte n'y soit pas. Certes, il y a eu 850 millions d'euros de promesses de dons, mais ça n'est pour l'essentiel pas encore arrivé dans les caisses. Et là, il faut distinguer 2 catégories de donateurs. Les collectivités locales, et là c'est vrai qu'il y a une incertitude, certaines ont déjà fait machine arrière, comme récemment la ville de Lyon. Et puis il y a les entreprises et les grands mécènes, les Pinot, Arnaud. Et là, pas d'inquiétude, assurent les organismes collecteurs. Tous signeront des chèques au fur et à mesure en fonction de l'avancement des travaux. C'est comme ça que ça se passe en matière de mécénat. La Fondation Notre-Dame a d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui avec LVMH pour planifier les 200 millions d'euros promis.
Et les dons commencent à servir concrètement en fait sur le terrain.
Et oui, il y a déjà une demande de financement pour sécuriser le chantier, comme l'explique le délégué général de la Fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot.
Nous avons encaissé 15,5 millions d'euros et ce sont 3,6 millions qui nous sont demandés par l'État pour financer cette sécurisation du chantier. Quand la loi sera votée, nous allons avoir un descriptif du chantier par tranche. C'est en fonction du descriptif de ces tranches que nous opérerons les versements qui nous seront appelés.
Et en parallèle, les dons qui sont faits par des particuliers sont toujours en cours de traitement.
Et oui, environ 6000 chèques à traiter, rien qu'à la Fondation du patrimoine.
Et du boulot.
Des chèques, mais aussi des espèces. En détail, Idalina Alonso, la comptable.
On a eu à peu près 5000 euros en espèces. Des billets de 10 euros, 50 euros, 20 euros, comme ça, dans une enveloppe. On a eu un touriste chinois qui est venu à la Fondation du patrimoine nous amener 100 euros en liquide. Il ne parlait pas un mot d'anglais, pas de français, rien du tout. Et voilà, juste avec Notre-Dame, son passeport et de l'argent, il nous a fait un don.
Alors, la Fondation du patrimoine hein, traite donc ces chèques, ces espèces, on l'entend, mais elle se mobilise désormais pour une autre cause, c'est celle qui a remplacé hein, cette collecte pour Notre-Dame. Il s'agit des bâtiments en péril immédiat, pour lesquels elle a lancé un fonds d'urgence, comme l'explique sa directrice générale, Célia Véro.
Ce sont des sites qui menacent de s'effondrer, qui sont fermés au public depuis des années, avec des périmètres de sécurité parce qu'il y a des pierres qui peuvent tomber sur les passants, ou avec des risques de sécurité incendie qui ne sont pas du tout traités. Nous pensons que le message de Notre-Dame, c'est aussi qu'il y a toutes ces autres causes légitimes.
L'objectif, hein, c'est de recueillir entre 1 et 2 millions d'euros.
Merci beaucoup. La collecte pour la reconstruction de Notre-Dame, on commence à en voir les premiers effets, même si tous les dons ne sont pas encore versés. Une enquête signale Laure Jumet pour ce dossier. Europe 1 va plus loin. Merci.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Hein, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Quelle est votre enquête ce matin, Nissem Bida? Faites-moi rêver.
Moi, j'ai enquêté sur la musique immersive. On va voir une technologie qui nous plonge dans un son qui arrive dans tous les sens.
C'est mieux que la stéréo?
Oh bah oui, beaucoup mieux.
C'est de la 3D en fait.
C'est de la 360.
Expliquez-nous tout ça dans quelques instants, cher Anissem Bida. Bon réveil à tous. Vous écoutez Europe 1, merci de votre confiance.
Il est 7h24. Il est 7h26. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissem Bida, Nikos.
Et ce matin, les amis, écoutez bien, du nouveau dans la façon d'écouter la musique. Alors, on connaît tous le mono, hein, on écoutait avec une petite oreillette, la stéréo dans les années 70-80, oui, qui a tout révolutionné. Et on va désormais avoir un son totalement immersif. De quoi s'agit-il, Anissem?
Eh bien, on va avoir l'impression que le son vient de n'importe où, hein, donc d'en haut, d'en bas, devant, derrière. Et j'ai essayé, c'est vraiment impressionnant. On a les poils qui se dressent, hein, exactement comme si on était au milieu de la fosse d'un concert.
Magnifique.
Alors, vous savez, c'est une technologie que vous connaissez peut-être, parce qu'il s'agit du Dolby Atmos. C'est la même technologie qu'on utilise aujourd'hui au cinéma. Vous savez, quand on a l'hélicoptère qui a l'impression qu'il traverse la salle, eh bien là, ça a été adapté à la musique. Et les premiers albums remasterisés vont sortir chez Universal. On aura un peu tout, hein. Marvin Gaye, R.I.M., Beck et même du classique. Mais vous savez où ça va avoir plus d'impact?
Non.
Sur la musique relaxante.
Ah ouais.
Parce que là, c'est un secteur qui cartonne en ce moment et ça va changer de dimension quand on sera complètement immergé à 360 degrés dans le son.
Parce que ça joue avec les émotions et il est prouvé que la musique peut avoir un impact sur notre condition aussi psychologique. Est-ce qu'il faudra un équipement spécial pour en profiter, Anissem?
Et oui, malheureusement, il faudra du matériel Dolby Atmos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être déjà chez soi, avec les home cinéma, vous savez, il y a déjà pas mal d'amplis, d'enceintes et de barres de son qui sont compatibles Dolby Atmos. Il y a même déjà des ordinateurs et des téléphones portables. Mais dans ce cas, si on veut vraiment avoir un son immersif, il faudra utiliser un casque qui est Dolby Atmos, ce qui est encore assez rare et même plutôt cher, puisqu'on n'est pas loin des 600 euros le casque.
Ouais, quand même.
Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça fait depuis les années 60, depuis la stéréo, qu'on n'avait pas connu une nouvelle façon.
C'est une révolution.
D'écouter la musique. Hein. Quand on est passé de la mono au stéréo, c'était bluffant, c'était changeant. Et bien là, ça va tout changer. Et alors on verra quand même si ça finit par convaincre le public ou si ça restera gadget comme la 3D au cinéma, qui n'a pas marché.
Ça n'a pas été développé tellement chez. Le particulier. Est-ce que ça peut marcher pour la radio aussi,
oui,
par exemple?
Oui, vous savez que c'était Europe 1 et RTL qui avaient fait la première retransmission en stéréo. Ouais. Il y avait Europe 1 sur un poste, RTL de l'autre, et ils se répondaient. C'était Jacques Martin, je crois, à l'époque, qui se répondait.
En
et
stéréo.
Donc, oui, ça va utiliser aussi pour la
Alors
radio.
Alors, peut-être qu'on pourra vous faire une matinale en Dolby Atmos. Est-ce que vous vous rendez compte les dégâts avec Cantelou? On est mal barré. Merci Anissem Bida pour cette innovation du jour.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans deux minutes, on retrouve Céline Kamal pour le journal, mais tout de suite, la météo. Laurent Cabrol.
Atmos, en grec, ça veut dire les vapeurs. Est-ce qu'il y a des vapeurs ou des émanations ce matin?
Pas trop de vapeurs, mais pas mal de
brouillard.
De brouille.
Ah, il voilà, y a de la brouille.
C'est de la brouille hein, quand même. Hein. Hors saison, comme dirait notre ami Cabrel, Francis Cabrel, quand il chantait hors saison, c'est un peu ce que nous vivons en ce moment. Ouais. Et une ville se fane dans les brouillards salés, la colère océane est trop près. Eh bien, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous avons une petite colère océane qui arrive, mais qui s'éparpille sur l'étoile de la Manche, le Nord, la Loire-Atlantique, la région parisienne, les Ardennes. L'humidité s'échappe lentement. Les éclaircies sont à venir progressivement dans la matinée. Sur les pays de la Loire, la Champagne et le Poitou-Charentes, ce sera un temps, disons, agréable en deuxième partie de journée. Sur Paris, trois gouttes ce matin, mais n'ayez pas peur. Ensuite, vous aurez des éclaircies. Dans le sud-ouest, le Limousin, la Bourgogne et la Lorraine, des pluies fines. En Alsace, en Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, des averses et des averses musclées. sur la Côte d'Azur et la Corse. Température entre 19 et 23 degrés.
Merci, cher ami. Laurent Cabrol dans moins d'une demi-heure. À suivre à 7h40, Jean-Michel Apathy, la victoire du Rassemblement National hier soir. Comment Marine Le Pen va-t-elle s'en servir pour la suite? 7h43, Axel de Tarlé. L'Élysée et Matignon veulent maintenir le cap des réformes économiques. En ont-ils vraiment les moyens après les résultats des européennes? Et à 7h45, la poussée des populistes au Parlement européen, mais pas de raz-de-marée. Pour eux, le plus dur commence, c'est-à-dire réussir à s'unir. Dans un quart d'heure, je reçois Erwan Lecoeur, politologue spécialiste des extrêmes droites européennes. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 27 mai, il est 7h30.
7h-9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal de 7h30 est présenté par Céline Kalman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Une participation bien plus forte que ce qu'avaient prévu les sondages. 50,12% des électeurs sont allés voter. C'est 8 points de plus qu'en 2014. C'est l'un des enseignements de ce scrutin européen avec plusieurs autres surprises, à commencer par le score des Verts en France. 13,4% des voix. La prise de conscience des enjeux liés au réchauffement climatique a visiblement boosté le vote vert, arrivé en troisième position. Justin Morin.
Au moment d'entamer son discours, la tête de liste Yannick Jadot n'y est pas allé par quatre chemins.
Nous sommes ce soir la troisième force politique en France.
En face, les militants exultent.
Ça me remplit de joie.
Mais n'hésite pas à aller un peu plus loin.
On apparaît comme le premier parti de gauche. Tous les partis de gauche se sont basés sur l'écologie par rapport à leur programme. Et je pense que les électeurs ont préféré l'original à la copie.
Même point de vue chez Damien Carême, le maire de Grande-Synthe numéro 3 sur la liste. Mais lui pointe surtout la campagne de La République En Marche.
Ils ont essayé, mais ça n'a pas pris. Je pense que les Français sont pas dupes. Nous, on a la cohérence de notre liste, on a martelé sur le terrain. Vraiment, tout le quotidien, c'est l'écologie. On peut pas faire du en même temps. Faut aller complètement dans l'écologie.
Marie Toussaint va elle aussi découvrir le Parlement européen. Elle reconnaît que la fin de campagne a bien été marquée par l'écologie.
C'est bien, c'est important que tout le monde parle d'écologie, que tout le monde avance. Mais il y en a dont on sait bien qu'ils nous racontent des histoires. Voilà, tout le monde réalise bien que pour faire de l'écologie, c'est avec les écologistes.
Un discours qui, selon elle, aurait en particulier séduit la jeunesse. Un motif d'espoir supplémentaire.
Justin Morin, des Verts qui ont également fait un score historique en Allemagne avec près de 21% des voix. En tête, le Rassemblement National, 23,3%. Devant la liste de La République En Marche, 22,4%. Le chef de l'État a déjà fait savoir qu'il ne changerait pas de cap. Hier soir, en tout cas, les militants d'En Marche étaient fébriles à l'annonce des résultats avant de relativiser cette seconde place. Virginie Riva.
Silence à l'annonce du résultat du Rassemblement National arrivé en tête. Puis les militants applaudissent le score de Nathalie Loiseau et scandent son prénom. L'écart avec le RN n'est pas si important, contrairement au premier sondage sorti des urnes connu dès la fin d'après-midi. Agathe le reconnaît, elle a eu peur.
On était au QG à ce moment-là et c'est vrai qu'on a eu des petites sueurs froides. Donc c'est pour ça finalement le résultat final est assez satisfaisant je trouve. Et on était engagés, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et...
Soulagé, oui, mais être derrière le RN, ça, Bouchra ne s'y résout pas.
On n'est jamais soulagé quand on est deuxième derrière le Front National. Non, il va falloir tirer les leçons de tout ça. Mais encore une fois, c'est plus que sauver les meubles, c'est qu'on a un résultat très honorable pour un parti au pouvoir, pour une élection à mi-mandat.
Les militants veulent surtout penser à la suite, au Parlement européen. Guillaume en est persuadé, Nathalie Loiseau pourra porter les combats d'En Marche.
Je préfère de loin avoir une Nathalie Loiseau qui connaît très bien ces sujets, qui sait quoi elle parle, qui saura prendre les bonnes décisions, que quelqu'un qui va voter non à tout, comme Jordan Bardella, qui n'a aucun fond en fait.
Un cadre d'En Marche nous confiait en revanche hier soir être heureux d'avoir terminé cette campagne. Une mauvaise campagne selon lui, émaillée de tensions entre Nathalie Loiseau et le mouvement.
Virginie Riva. Et ce matin, c'est la gueule de bois pour le parti de Laurent Wauquiez. 8,4% pour les Républicains. Très loin des près de 21% en 2014. D'ailleurs, Valérie Pécresse a déclaré il y a quelques minutes à la place de Laurent Wauquiez, elle démissionnerait de la présidence LR.
La France insoumise essuie un sérieux échec avec 6,3% des voix.
Une terrible désillusion pour Jean-Luc Mélenchon, très loin là aussi du score obtenu à la présidentielle, près de 20%. Terrible désillusion pour les militants aussi réunis hier soir dans un bar du 10e arrondissement de Paris. Anne-Laure Jumet.
Dès que s'affichent les premières estimations sur les télés, c'est le silence. Les militants accusent le coup comme Antoine.
C'est une immense déception parce qu'on escomptait au moins 8 à 10%. On avait vraiment des indicateurs assez précis. On pensait avoir fait une excellente campagne, on a fait beaucoup de porte-à-porte, on a une excellente tête de liste, donc on y croyait très sincèrement.
Des militants sonnés par le bon score d'Europe Écologie Les Verts qui étaient pourtant au coude à coude avec la France Insoumise dans les sondages. Un scénario que n'avait pas vu venir Grégory.
Les gens ont voté au dernier moment pour les Verts. Ça aurait pu se passer différemment. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est à 6. Ils sont beaucoup plus hauts. C'est dommage.
Même du côté des ténors de la France Insoumise, on est à court de mots. Et quand on demande au député du Nord, Hugo Bernalicis, ce qui a péché dans cette campagne, il répond
C'est vraiment l'énigme. Hein. Tout le monde me pose la question et j'en sais rien. Pour regarder dans mes entrailles et voir dans mes boyaux si j'ai une explication rationnelle, mais pour l'instant, j'ai pas d'explication rationnelle. Surtout que dans les sondages d'opinion, on nous donnait encore il y a deux jours à 8-9%.
Il faudra quand même analyser ce mauvais résultat, reconnaît l'un des colistiers de Manon Aubry, ce qu'on n'a pas su faire dans un contexte où l'aspiration est grande.
Alors, Jumet, 6,1% au score du Parti Socialiste Place Publique, liste portée par Raphaël Glucksmann. Notez que les 28 autres listes n'ont pas d'élus. En Italie, l'extrême droite de Salvini est arrivée en tête et en Espagne, le Parti Socialiste a recueilli de près de 30% des voix. À Barcelone, notez que Manuel Valls, qui se présentait au poste de maire, a perdu. Il est arrivé quatrième.
Dans l'actualité également ce matin, le procès de l'affaire Sophie Toscan-Duplantier.
Oui, la femme du producteur de cinéma était assassinée en Irlande en 1996. Ian Bailey, unique suspect, a toujours nié en bloc. Il ne sera pas présent à l'audience. Le fils de la victime n'a aucun doute sur sa culpabilité.
Bailey, c'est pas le suspect numéro un, c'est le seul et unique suspect dans le dossier. Il a dit à plusieurs reprises qu'il avait tué ma mère, à des amis à lui, à des gens qu'il a pris en stop, dans des pubs. Il a donné des détails de blessures sur le corps de ma mère, alors même que l'autopsie n'avait pas encore été réalisée. Il y a un nombre d'éléments à charge sur cet accusé qui sont innombrables. Ce n'est pas possible que depuis 23 ans, il ne se passe rien et qu'un suspect d'un crime grave soit encore dehors et qu'il ne se soit pas expliqué face à tous les éléments qui sont à charge contre lui.
Pierre-Louis Baudet-Vignon, invité hier de Patrick Cohen sur Europe 1. Roland Garros, c'est la victoire hier de Nicolas Mahut qui s'est qualifié pour le second tour en 5 manches après avoir été mené 2-7-0. Il n'a jamais lâché.
C'est assez difficile de décrire avec des mots ce que je ressens parce qu'il y a un peu de fatigue, il y a un moment à la fin où je me dis voilà, je sais que j'ai gagné mais j'y crois pas vraiment. En même temps, j'ai pas gagné le tournoi mais en même temps, je suis hyper heureux donc j'ai envie de le profiter avec mes coachs, avec ma famille, mon fils qui est là. C'est très égoïste, c'est un pur moment de bonheur que j'ai envie de partager avec eux à ce moment-là.
Nicolas Mahut avec Christophe Lamarre, retour gagnant aussi pour le Suisse Roger Federer hier. À suivre aujourd'hui, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Serena Williams. Rendez-vous à 8h35 pour le journal de Roland Garros. Je vous rappelle qu'Europe 1 est la radio officielle du tournoi.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Merci Céline Kallmann. On attend vos réactions, chers auditrices et auditeurs, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. À suivre la politique avec Jean-Michel Apathy.
Oui,
Jean-Michel,
bonjour.
Bonjour.
On va parler évidemment de ce résultat des élections évidemment. Européennes, un résultat complexe à analyser. Il n'y a pas beaucoup de gagnants, mais il y a un perdant. On met de l'ordre dans quelques minutes dans tout ça.
On nous dira qui c'est juste après la pub. Et puis l'économie avec Axel de Tarlé.
Et moi, ce seront les enjeux économiques de ces élections européennes qui sont très importants. Il s'agit notamment de faire baisser les dépenses publiques.
Apathy Tarlé, le duo gagnant dans un instant sur Europe.
Un très bon réveil à tous, il est 7h37. Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Jean-Michel Apathy, le Rassemblement National est arrivé en tête des européennes. Est-ce que c'est un nouveau départ pour Marine Le Pen ?
Elle a envie de le croire, Marine Le Pen, et elle a quelques raisons d'y croire. D'abord, c'est quand même important, elle inverse... C'est une victoire symbolique, la photographie du premier tour de l'élection présidentielle, le Rassemblement National... redevient le premier parti de France. Et cette campagne électorale a permis à Marine Le Pen, ça c'est important, de gommer l'effet négatif du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Marine Le Pen s'est réinstallée sans pouvoir être contestée à la tête de son parti et cette élection européenne authentifie cela. Donc c'est une victoire symbolique importante. Sur le plan plus strictement politique, le résultat est compliqué parce qu'on voit par rapport à l'élection européenne de 2014, le Front National progresse, mais en pourcentage de suffrages exprimés, il régresse à peu près d'un point et demi. Marine Le Pen, qui dirigeait la liste en 2014, fait 24,80% des suffrages exprimés. Là, on est à 23,30 ou 23,40 selon les derniers résultats. Donc ça n'est pas, il n'y a pas d'apport, par exemple, des gilets jaunes pour le Rassemblement National. C'est quand même important. Le Rassemblement National ne capte pas vraiment ce qu'Emmanuel Macron a pu décevoir, par exemple, à la droite de l'échiquier politique. Donc, c'est en demi-teinte. Marine Le Pen a dit hier soir, nous sommes le parti de l'alternance. Oui, mais c'est un parti qui plafonne à 24%, au quart de l'électorat, et qui n'a aucun allié pour aller au-delà. Alors, comment est-ce qu'on arrive au pouvoir ? C'est l'éternelle question du Rassemblement National, et on ne peut pas dire que Marine Le Pen, pour l'instant, ait trouvé la réponse à cette question. Emmanuel Macron, c'est presque l'inverse. Il y a une défaite symbolique évidente. Le parti du président n'est plus le premier parti. deux ans après son installation à l'Élysée, on peut appeler ça comme on veut, mais ça c'est un échec. Mais il n'y a pas de défaite politique, parce que l'écart avec le Rassemblement National n'est pas très important, et du coup, Emmanuel Macron n'est pas obligé de modifier son dispositif politique. François Hollande, en 2014, il est obligé de changer de Premier ministre. Emmanuel Macron ne l'est pas. Oui. Après, ça ne va pas être facile de mener l'action, Axel va nous en parler, mais enfin, c'est comme ça. Après, il y a un échec patent, enfin... Oui, il y a un échec patent, c'est d'abord celui des sondeurs qui n'ont pas du tout vu que François-Xavier Bellamy des Républicains serait dans le trou. Les sondeurs donnés dans la dernière semaine, Bellamy à 13%.
Là, assez haut, oui.
On est à 8. Jamais les Républicains, ex-UMP, ex-RPR, tout ce qu'on veut, n'ont fait un aussi mauvais score. Mm-hmm. François-Xavier Bellamy, c'était à la fois le candidat choisi par Laurent Wauquiez et le candidat qui exprimait le mieux la ligne conservatrice de Laurent Wauquiez. S'il y a une logique dans la politique, Laurent Wauquiez ne peut pas rester et sans doute ne restera pas président des Républicains. Mm-hmm. Yannick Jadot, 13%, on dit que c'est le vainqueur.
Personne ne l'avait vu non plus.
À lui non plus, les sondeurs, ils n'ont rien vu sur Jadot. D'accord. Il le donnait à 10 à peu près, 13. Les Verts, leur particularité, c'est qu'ils ne sont pas dans la culture politique française. Ils ne savent pas fabriquer un candidat à l'élection présidentielle et du coup, ils ne savent pas quoi faire de leur succès aux élections intermédiaires. Mmh. En 2009, Daniel Cohn-Bendit a 17% des voix. En 2012, la candidate écologiste fait 2% des voix à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est... Les Verts, en fait, on se demande à quoi ça sert. À défendre l'écologie, on sait. Après, le reste, on n'a pas trouvé. Et puis enfin, il y a l'échec de Jean-Luc Mélenchon. Il a quitté le Parti Socialiste. Son objectif permanent, ça a été d'être toujours devant le Parti Socialiste, de se venger du Parti Socialiste. Et là, hier, il termine à 6% et des poussières, à égalité avec le Parti Socialiste, sans doute de tous les acteurs de cette élection européenne. Ça doit être l'un de ceux qui a le plus mal à la tête ce matin.
Voilà pour la lecture politique de ce scrutin européen avec vous, Jean-Michel Apathy. C'était votre point de vue, comme tous les jours, sur notre antenne. Axel de Tarlé, concernant maintenant les enjeux économiques, est-ce que ces résultats vont changer quelque chose ?
Alors écoutez, à l'Élysée, on voit un feu vert en tous les cas à la poursuite des réformes. Pas question de changer de cap. On dit même vouloir intensifier ces réformes. De quoi parle-t-on ? En l'occurrence, il y a deux réformes très importantes. Réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage. Donc, l'objectif...
Quel est l'objectif de ces deux réformes ? Qu'est-ce qui va changer ?
Eh bien écoutez, il est simple. Pour ces deux réformes, l'objectif est le même. Il est de nous inciter à travailler plus. Alors, je décline, pour la réforme des retraites, ça veut dire quoi ? Vous savez que la France est le pays de l'OCDE où le temps passé à la retraite est le plus long. C'est 27 ans pour les femmes, 23 ans pour les hommes. On est champion du monde. Donc, alors, l'âge légal restera à 62 ans, ça ne change pas. Mais le gouvernement, pour nous inciter à travailler plus, va créer un système de bonus-malus. Alors, on ne dit pas malus, on dit décote. Mais en gros, on va avoir un malus, une décote.
On a compris l'idée.
Voilà, si on part avant 63 ou 64 ans, l'âge sera à définir. Et puis, idem pour l'assurance chômage. Le gouvernement, là aussi, veut nous inciter à travailler plus. Alors, en revoyant le système de cumul emploi-chômage qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui alterne CDD et période de chômage, où elle est indemnisée, peut parfois gagner plus qu'une personne qui est à temps complet en CDI. Donc l'objectif, c'est bien de durcir les conditions pour qu'il y ait moins de gens inscrits à Pôle emploi et donc moins de gens à indemniser. En fait, l'objectif final, c'est que l'on tire moins sur notre système de retraite et que l'on tire moins sur notre système d'assurance chômage. L'objectif, c'est de faire des économies, de faire baisser la dépense publique en diminuant le poids des retraites et le poids des indemnisations chômage, qui sont deux postes de dépenses particulièrement élevés en France. Vous savez, les dépenses de retraite en France, c'est 14% du PIB. Chez nos voisins européens, c'est les dépenses de retraite, c'est 10% du PIB. Or, aujourd'hui, c'est l'un des angles morts de la politique d'Emmanuel Macron. On lui reproche de ne pas réussir à faire baisser la dépense publique. Vous savez, il a même officiellement renoncé à son objectif de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Et bien, c'est l'une de ses réponses. Si je vais faire baisser la dépense publique en faisant baisser la dépense social, le fameux pognon de dingue, les retraites, le chômage. Alors en tous les cas, on sera très vite fixé sur la réalisation de cet objectif parce que la réforme de l'assurance chômage, c'est dans les semaines à venir, elle sera au mois de juin. Mmh. Et la réforme de la retraite, c'est, on nous promettons, avant la fin de l'été.
Affaire à suivre, c'était le Zoom Echo présenté par Axel de Tarlé.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
La poussée des populistes au Parlement européen, mais pas de raz-de-marée. Vont-ils réussir à s'unir ? Peuvent-ils gêner ou bloquer les partis pro-européens ? Dans un instant, je reçois Erwan Lecoeur, politologue spécialiste des extrêmes droites européennes. A tout de suite.
Une belle matinée sur Europe 1, il est 7h45. Il est 7h46, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
À la place et dans la situation de Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse démissionnerait de la présidence des Républicains, selon ses termes. Déclaration ce matin de la présidente de l'Île-de-France, les Républicains ont obtenu 8,4% des suffrages européennes. C'est un score historiquement très bas. Sérieux revers aussi pour la France Insoumise avec 6,3% des voix. C'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête avec 23,3% des voix. La liste menée par Nathalie Loiseau est à 22,4%. Europe Écologie Les Verts fait une percée surprise avec 13,4%. Et puis dans le reste de l'actualité, Renault et Fiat qui veulent former un géant mondial. Le constructeur français doit officialiser aujourd'hui un projet d'alliance.
Europe 1. Au cœur de l'actualité ce matin, Nikos, les résultats des élections en Europe. Vous recevez Erwan Lecoeur, politologue spécialiste des extrêmes droites européennes.
Bonjour Erwan Lecoeur.
Bonjour.
Les sondages prédisaient une forte poussée des populistes et des nationalistes au Parlement européen. Il n'y a pas eu de raz-de-marée ?
Non, le raz-de-marée n'a pas eu lieu, notamment en Italie, où Matteo Salvini ne fait pas si bien qu'il l'espérait, dans d'autres villes et dans d'autres capitales également. Et en France, on a le Rassemblement National qui fait un peu moins bien finalement que la fois dernière. Il avait fait 24,8, même s'il y a une forte participation, ce qui fait qu'en nombre de voix, c'est quand même un bon score pour Marine Le Pen et son équipe.
Alors, évidemment, dans chaque pays, c'est différent parce que le contexte politique de chaque pays est différent. Mais qu'est-ce qui pourrait avoir contenu cette vague populiste qui était attendue ?
D'abord, le fait qu'elle était, en effet, comme vous le dites, attendue, elle était annoncée. Et du coup, il y a eu, en face, une mobilisation autour, notamment d'Emmanuel Macron, mais d'autres forces politiques. On le voit, on a parlé des écologistes, hein, qui ont fait de très bons scores dans beaucoup de capitales européennes et en France. Une grande surprise, à nouveau, comme en 2009, d'une certaine façon. Donc, il y avait d'abord le fait que les sondeurs annonçaient cette vague et qu'il y a eu une mobilisation. On le voit avec la participation qui, depuis 25 ans, n'avait pas dépassé les 50%. Ça, c'est la première nouvelle, c'est que les européennes ont mobilisé sur des enjeux. Les deux enjeux principaux, c'était en effet la montée du national-populisme partout dans le monde. Hein, il y a eu les élections en Inde récemment, les Français le regardent peu, mais le pouvoir hindouiste nationaliste très à droite est repassé largement.
900 millions d'électeurs, hein, c'est
absolument,
un immense
c'est la plus grande démocratie du monde. Il y a un grand trend, disons, un grand courant dans le monde, les USA, la Chine, l'Inde, je le disais, le Brésil, mais aussi la Russie, toutes ces grandes puissances sont passées au nationalisme populiste. Et en Europe, c'est également le cas un petit peu.
Donc, pour peser aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Europe au Parlement, les populistes, ils doivent faire quoi ? Ils doivent s'entendre. Dans l'Assemblée sortante, ils étaient éclatés, je crois, en trois groupes.
Exactement.
Ils peuvent n'en former qu'un, comme l'espérait ou comme l'espère Matteo Salvini. Est-ce qu'ils peuvent
leur espoir.
Le faire
leur espoir.
Avec Marine
priori,
Le Pen ?
Il y en aura deux. Il y en aura deux, a priori, puisque dans tous les cas, il y aura en gros un groupe autour de Marine Le Pen et Matteo Salvini qui va devenir, lui, le principal, je dirais d'ailleurs, pourvoyeur d'élus. Il est en tête, hein, il est à 30%, même s'il espérait faire près de 40%. Et surtout, il a pris une aura internationale et européenne forte, plus que Marine Le Pen ces dernières années. Donc c'est lui qui va véritablement gagner les choses. Mais il y a aussi les Brexiteurs, hein, Nigel Farage, qui fait près de 30% également, même s'ils ne vont pas rester. Ils vont être présents dans les premiers mois du Parlement européen. C'est étrange, mais c'est comme ça. Mais il va quand même y avoir des différences parce que ces nationalistes, comme leur nom l'indique, sont nationalistes. Ils ont du mal à s'entendre sur une base, disons, européenne. Ils vont tenter, cette fois, d'avoir un groupe qui approche les 100 élus, ce qui ferait d'eux une force politique importante, même si les écologistes, eux, ont également progressé. C'est les deux forces qui ont le plus progressé, sans doute, avec les libéraux.
Et même dans la forme, on voit bien que même en communication, chacun a son style. On l'a vu Salvini aller voter en maillot de rugby. En maillot de rugby de l'équipe nationale italienne. En Hongrie, en revanche, le souverainiste Viktor Orban a écrasé les autres avec plus de 52% des voix. Jusqu'ici, il ne s'est pas allié avec les autres partis populistes. C'était un PPU. Mais qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ?
Alors lui, il a une autre stratégie qui est de rester dans le PPE, le parti de la droite européenne, et de peser de l'intérieur pour faire valoir, en gros, son principal problème, qui est les migrants. Hein. La Hongrie, comme l'Italie, comme la Grèce aussi, comme d'autres pays, sont touchés par les vagues de migration et ont mis en place une quasi-barrière, je dirais une barrière physique, avec des miradors, avec des barbelés, pour empêcher les migrants d'entrer en Hongrie. Et Viktor Orban, c'est son principal problème, c'est de dire, voilà le grand enjeu de ce siècle, c'est les migrants venus d'ailleurs, c'est de conserver l'Europe telle qu'elle a toujours été, catholique ou autre. Et voilà, il y a une vision identitaire que Viktor Orban espère pouvoir mieux tenir à l'intérieur du parti de la droite, qui reste majoritaire, même s'il est en déconfiture au niveau européen, reste majoritaire, plutôt que de rentrer dans des petits groupes d'extrême droite où il serait sans doute un leader, mais pas forcément le plus important. Donc il va jouer sa carte au sein de... il va essayer de jouer sa carte au sein de la droite européenne, où certains pensent qu'il n'a rien à faire aujourd'hui.
Oui, la droite européenne, le Parti Populaire Européen dont on parle, le PPE, qui reste quand même le premier groupe devant les sociodémocrates, mais tous les deux reculent. Ce sont les centristes, en quelque sorte, qui ont fait leur entrée dans le jeu, qui sont un peu les faiseurs de roi dans la nouvelle Assemblée. Donc, c'était un peu l'objectif d'Emmanuel Macron.
C'est exactement son objectif, c'est de faire en sorte que le groupe libéraux, l'ancienne ADLE, les libéraux et européens, soit les faiseurs de roi, c'est-à-dire la force qui n'est pas forcément majoritaire, mais qui, alliée avec soit les sociodémocrates, soit le PPE, puisse décider du cours des choses au niveau européen. L'Europe, c'est un autre système qu'en France. Il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de choses qui se font entre les groupes, à l'intérieur des groupes sans doute, mais entre les groupes surtout. Et là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a une explosion, mais ça fait un moment, des forces traditionnelles, la gauche et la droite traditionnelles, le socialisme et les conservateurs, en France comme dans le reste des pays, en Autriche par exemple, on l'a vu énormément, on le voit aussi en Allemagne, on le voit dans tous les grands pays, il y a une explosion de ces forces traditionnelles de gauche et de droite, et une composition autour de trois pôles. Ouais. Pour le dire un peu rapidement, il y a un pôle qui est clairement le pôle national-populiste avec ces partis qui sont de plus en plus forts à travers l'Europe. Il y a un pôle central que Emmanuel Macron incarne parfaitement bien, qui est un pôle gestionnaire libéral, disons, et qui est en train d'émerger sociologiquement comme le pôle de conservatisme, statu quo en quelque sorte. Et il y a un troisième pôle qui peine à émerger, avec à la fois les écologistes, on les voit en force aujourd'hui, mais aussi toute cette gauche alternative un peu radicale parfois, qui essaie d'émerger et qui, en France, a du mal à se coaliser et à trouver une force politique alors qu'elle est une force sociale. Ça pèse 30 à 35% de la société aujourd'hui.
Erwan Lecœur, dernière question. On a beaucoup parlé pendant la campagne d'une possible dislocation de l'Europe avec l'entrée et la poussée populiste. Elle est écartée aujourd'hui ?
Elle n'est pas écartée, elle ne sera pas écartée tant que l'Europe n'aura pas de grands projets. L'Europe a d'abord enthousiasmé, puis elle a lassé les gens parce qu'elle avait beaucoup de choses techniques à proposer et pas tellement de grands projets.
Pas de vision politique commune.
Voilà, il n'y a pas de citoyenneté européenne forte. Et donc l'Europe aujourd'hui reste très fortement menacée de l'extérieur, la Russie, les USA, mais elle reste aussi menacée de l'intérieur par les nationaux populistes qui sont quand même arrivés en force. L'Europe, tant qu'elle n'aura pas de grands projets, tant qu'il n'y aura pas un grand projet européen, elle est très menacée aujourd'hui en ce début du XXIe siècle.
Erwan Lecœur, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des extrêmes droites européennes. Et merci à Jean-Luc Bougeon, notre correspondant en Rhône-Alpes, pour avoir assuré la liaison technique de ce duplex. Merci beaucoup.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, la dégringolade des Républicains européennes. Le parti de Laurent Wauquiez, on l'a dit, depuis ce matin, ne recueille que 8,4% des suffrages. Détails et analyses dans le journal de 8h, avec aussi la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Elle arrive.
A tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 7h55. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas, un événement historique cette nuit aux États-Unis, un Français a gagné les 500 miles d'Indianapolis. De quoi s'agit-il ?
On ne voit qu'elle sur la piste, en tout cas cette monoplace jaune fluo qui tient bon dans le dernier tour. Au volant, un pilote né il y a 35 ans dans la région de Poitiers. Oui, on est bien loin de l'Indiana. Retenez bien son nom, il s'appelle Simon Pagenaud. Simon Pagenaud, un Français qui gagne Indianapolis. C'était pas arrivé depuis un siècle, les amis, une éternité. Et le voici, notre Frenchie qui débouche le champagne. Ah non, c'est pas du champagne, c'est une bouteille de lait. Oui, la tradition Indianapolis, on boit du lait à l'arrivée. Et on dit quelques mots au micro avec le French accent.
It's hard to believe right now, to be honest with you. It's been such an intense race.
Voilà, difficile à croire, la course a été très intense, c'est ce que nous dit Simon Pagenaud, très ému, on lui passe un téléphone, c'est Donald Trump qui veut le féliciter en personne, un tourbillon d'embrassade avec les mécanos de son équipe, ils embrassent la piste tous ensemble, bref, vous savez quoi, Simon Pagenaud vient de vivre en vrai son rêve américain.
Un Frenchie, on est fiers, bravo Simon Pagenaud.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite la météo, Laurent Cabrol-Nicos.
C'était Dire Straits,
oui,
on a entendu que trois notes.
Oui, avec trois notes, et puis trois notes de météo aussi, si vous le permettez.
C'est pour ça.
Je suis très pressé. Donc, c'est l'étoile de la Manche, le Nord, la Loire-Atlantique, la région parisienne et les Ardennes. Nous aurons un temps qui va s'arranger au fil des heures, notamment sur Paris. Sur les pays de la Loire aussi, ça va s'arranger. Les secteurs et les pluies resteront là, mais très éparses, très petites. Sud-Ouest, Limousin, Bourgogne, Lorraine, des averses en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en Alsace. Attention, averses musclées sur la Côte d'Azur et sur la Corse, et avec même des orages. Sur le Languedoc et le Roussillon et dans la vallée du Rhône, du vent et du soleil. 90 km/h, c'est là où le Mistral et la Tramontane vont souffler. 17 degrés à Saint-Brieuc, meilleur de la journée. 18 à Bayonne, 19 à Bourges, Dijon et Épinal, 20 à Mende, 21 à Paris, 22 à Tours, 23 à Lyon, 24 à, 27 à Marseille et 28 à Nîmes.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure pour un autre point météo.
Et merci à vous d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 27 mai. Très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal de 8h vous est présenté par David Decamp. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le Rassemblement National en tête, La République en marche deuxième, Les Verts troisième force politique et la débâcle pour Les Républicains et la France Insoumise. Le PS vivote sous les 7 points. Une élection européenne et beaucoup d'enseignements, résultats, analyses et coulisses. Europe 1 vous explique tout ce matin. L'écologie est-elle devenue le premier sujet de préoccupation des Européens? Vague verte en France, mais aussi un peu partout sur le continent, comme en Allemagne. Nous serons à Berlin dans ce journal. Et enfin, quand on est déjà un géant, peut-on encore grandir davantage? C'est le projet de Fiat Chrysler qui veut s'unir à Renault-Nissan.
À 8h12, on écoutera le point de vue de Vincent Hervouette, puisqu'il l'anticipe, un Parlement européen ingouvernable. À 8h15, la campagne a été difficile pour elle. Audrey Crespo-Mara reçoit Nathalie Loiseau.
Europe 1. Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagnée.
La confiance que nous ont témoigné les Français en nous désignant comme le premier parti est un honneur immense.
Nous sommes la troisième force politique en France.
Notre résultat est très décevant.
Dans cette campagne où tout a été fait pour la réduire à un duel, Rassemblement National contre En Marche, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix.
Et vous les avez reconnues, ces voix. Édouard Philippe, Marine Le Pen, Yannick Jadot, qui revendique le statut de troisième force pour les Verts, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, qui subissent tous les deux une lourde défaite. Voici les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement National, 23,31. La République En Marche, 22,41. C'est donc moins d'un point d'écart entre les deux formations qui enverront au Parlement le même nombre de députés, c'est-à-dire 23. Les Verts ont créé la surprise avec 13,47% et les Républicains 8,48%. Quel échec pour François-Xavier Bellamy. Avec nous, Aurélie Herbemont, bonjour.
Bonjour.
Alors, on connaît bien, Aurélie, les ambiances de règlement de compte à droite. C'est parti. Valérie Pécresse vient de déclarer qu'à la place de Laurent Wauquiez, elle démissionnerait.
Oui, sans doute, je le ferai, vient-elle de glisser chez nos confrères de RTL. Laurent Wauquiez est sous pression. On est menacé de mort avec ce type, lâche un élu, qui rappelle qu'après son échec aux Européennes de 99, Nicolas Sarkozy, lui, avait démissionné. Ça va tanguer, mais on est solide, riposte l'entourage de Laurent Wauquiez. C'est se tromper de penser qu'il va lâcher. Alors, plutôt que de réclamer la tête du patron, beaucoup appellent d'ailleurs surtout à repenser la ligne politique, la stratégie. Bruno Retailleau, Gérard Larcher, immigration et identité, ça ne fonctionne pas, tranche un élu. Valérie Pécresse demande un élargissement pour faire revenir ceux qui sont partis. La droite ce matin est condamnée à se refonder totalement, car selon un député, imaginer que changer le chef suffirait, ce serait passer à côté du sujet.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, merci à vous Aurélie.
Le Rassemblement National est donc arrivé en tête hier soir.
Oui, de peu, mais en tête. 0,9 points d'avance sur La République En Marche, c'est un peu plus de 200 000 voix. Mais c'est suffisant pour Marine Le Pen, ces élections européennes l'installent comme seule capable de renverser Emmanuel Macron en 2022. Adrien Beck.
Ses mots ne la trahissent pas, mais ses yeux sont déjà rivés sur 2022. Avec cette victoire, Marine Le Pen revient de loin et entend regarder devant.
J'appelle tous les citoyens à nous rejoindre pour mener la bataille des élections municipales en 2020, puis régionales et départementales en 2021, qui seront autant de marches à franchir sur la voie du redressement national.
Prochaine étape, les municipales. On va tout de suite regarder les scores par département, confie un stratège du parti qui lorgne déjà sur plusieurs mairies LR dans le sud. Au passage, Marine Le Pen conforte sa place de première opposante. La marginalisation de la droite, le fraîchement élu député européen Jordan Bardella s'en félicite.
C'est vrai
qu'aujourd'hui, il y a deux blocs très très clairs. Ceux qui veulent les grands ensembles régionaux, l'Union européenne fédérale, le libre-échange total, les robinets grands ouverts avec l'immigration, et nous, les défenseurs de la révolution du bon sens et du localisme.
Dans les têtes, l'enjeu européen semble déjà loin. Première réaction d'un très proche de Marine Le Pen. Ce soir, c'est le premier acte de la présidentielle. On a déjà les deux qualifiés pour le second tour.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Alors, sans aller aussi vite, projetons-nous quand même. Quelles conséquences pour Emmanuel Macron ? C'est la question que je vous pose, Mickaël Darmon, bonjour. Alors Mickaël, est-ce que le gouvernement va changer de politique ?
Eh bien écoutez, pas de changement de cap, formule utilisée par tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac, reprise par Emmanuel Macron, même si effectivement son appel à faire battre le RN n'a pas été entendu en France. La République En Marche résiste bien et le président inaugure ainsi le concept de la victoire en seconde position et il veut aussi confirmer que le match face au RN reste la matrice politique de son mandat.
Donc pas de remaniement ?
Dès hier soir, on l'a entendu, Édouard Philippe s'est auto-confirmé à son poste. Je serai à la tâche pour poursuivre le projet du président et de la majorité. Le choix des mots est précis. Il va devoir accélérer des réformes annoncées par le grand débat et tenir compte du résultat également des élections, en particulier l'écologie. Un réaménagement gouvernemental est possible, mais son agenda n'est pas encore décidé.
Alors, je passe à un autre sujet, parce qu'il y a un autre grand perdant. On a parlé de Laurent Wauquiez et des Républicains, mais parlons de la France insoumise. Seulement 6,3% des suffrages. Quel impact pour Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien, lui aussi ne change pas de cap. La chute, depuis son échec à lever un mouvement contre Macron en passant par son comportement lors de la perquisition à son domicile, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus affaibli. La contestation du chef par ses élus, incarnée par François Ruffin, va s'accentuer. Et Jean-Luc Mélenchon rejoint la trouvaille de sa campagne et est en passe de devenir un hologramme politique.
Mickaël Darmon, du service politique d'Europe 1. Merci Mickaël.
La France insoumise qui devance à peine le Parti socialiste.
Oui, la liste de Raphaël Glucksmann recueille 6,19%. Ce que l'on appelait les partis de gouvernement sont dans les choux. Le séisme de 2017 aura donc eu une réplique en 2019. Et puis, aucun élu pour Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan. Ils sont tous les deux juste au-dessus de 3%. Un mot aussi des Gilets jaunes, on en a tant parlé. Eh bien, les deux listes issues de ce mouvement, dont celle de Francis Lalanne, recueillent 0,5% des suffrages en cumulé. Enfin, notez, Nico, ce score qui peut surprendre. Le parti animaliste obtient 2,1% des votes.
Voilà pour les résultats en France, mais nous votions dans 28 pays.
Oui, et le Parlement européen a changé de visage. Le PPE, la droite, et les sociaux-démocrates, la gauche, restent les deux principales formations, mais ils n'ont plus la capacité à réunir à eux seuls une majorité. Direction Bruxelles. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour David.
Les députés En Marche vont venir grossir le groupe des libéraux, et sans eux, Isabelle, il ne sera pas possible de légiférer, c'est bien cela ?
Et oui, il n'arrive que troisième ce groupe, hein, avec 107 sièges sur 751, mais il va jouer un rôle pivot. À Strasbourg, il n'y a pas de logique simple majorité-opposition à la française. Non, le quotidien européen, c'est des alliances entre familles politiques, des rapports de force, des compromis entre partenaires. Ce matin, la droite et la gauche ne peuvent plus décider seules. Elles vont devoir négocier avec les centristes et peut-être même aussi avec les Verts. Emmanuel Macron et ses alliés sont donc au centre du jeu pour peser sur le choix du futur président de la Commission européenne et aussi sur le programme politique des cinq années qui viennent. Et à cette aune, la progression réelle de Marine Le Pen et de ses alliés est moins significative. Les nationalistes sont hors du jeu des alliances. Ils vont perturber la vie politique européenne, mais pas la contrôler.
Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles. Merci à vous Isabelle.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, on votait dans 28 pays. Isabelle Horry vient tout juste de nous l'expliquer. Et c'est une vague verte qui arrive. Les écologistes font recette, en particulier en Allemagne. On vous dit pourquoi dans quelques instants. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La matinale avec David Doucan dans le journal de 8h, direction Berlin maintenant, David, en Allemagne, où les Verts ont fait sensation.
Oui, les conservateurs d'Angela Merkel restent première force du pays, mais ils sont en fort recul. Et les écologistes arrivent en deuxième position avec 22% des voix. Ils s'imposent comme l'alternative au gouvernement. Décryptage de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Les Verts allemands doublent leur score. Ils sont désormais la première force politique de gauche, ou plutôt de centre-gauche, car il y a quelques années, ils ont opéré un virage pragmatique. La nouvelle génération aux manettes se veut rationnelle, bien enracinée dans la société civile, capable de dépasser les clivages partisans classiques, rappelle Sven Giegold, qui était la tête de liste de ces européennes.
Et pour nous, il ne s'agit pas gauche-droite. On a le Premier ministre à Baden-Württemberg, qui est un grand land industrialisée avec les conservateurs. Avant, le même Premier ministre a dirigé avec les social-démocrates.
Les Verts sont au pouvoir dans 9 régions sur 16. Ici, l'automne dernier déjà, ils avaient fait une percée spectaculaire dans la très conservatrice Bavière. Tendance confirmée donc hier au niveau national. Après un été 2018 caniculaire, la question climatique était en tête des préoccupations des électeurs allemands, une priorité pour près de 9 électeurs sur 10. Les Grünen envoient 21 élus au Parlement européen. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Une alliance entre le groupe Renault et Fiat Chrysler.
Oui, le projet est présenté en ce moment même devant le conseil d'administration de Renault à Boulogne. Vous êtes sur place pour Europe 1, Aurélien Fleureau, bonjour.
Bonjour David.
Alors tout n'est pas encore ficelé, Aurélien, et l'État français qui est actionnaire, je le rappelle, reste vigilant, c'est bien cela ?
Oui, ce projet présenté en ce moment même ici aux administrateurs du groupe Renault avait été présenté vendredi dans le bureau de Bruno Le Maire à Bercy par Jean-Dominique Senard, un projet d'alliance qui à terme deviendra une fusion, un accord à 50-50 entre le constructeur français et le groupe Fiat Chrysler, groupe italo-américain en difficulté sur le marché européen. La volonté du nouveau patron de Renault, qui a accéléré les discussions avec Fiat ces dernières semaines, c'est vraiment de créer un géant européen capable de mutualiser les gros investissements pour continuer à développer les voitures électriques autonomes et connectées. C'est une alliance qui fait sens, dit-on du côté de l'État français, qui posera tout de même des conditions. Il sera vigilant sur l'emploi en France et souhaite que ce rapprochement se fasse dans le cadre de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi.
Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Roland Garros, c'est parti depuis hier.
Oui, avec notamment le retour d'une légende. Après 4 ans d'absence, Roger Federer foulait à nouveau la terre battue porte d'Auteuil et il s'est qualifié en l'emportant face à l'Italien Lorenzo Sonego. Christophe Lamarre.
Il n'attendait que lui. Une si longue absence valait bien un accueil royal. Roger Federer s'en doutait, il n'a pas été déçu.
Roger Federer.
Federer sourit d'un geste de la main presque timide. Il remercie le public. Toutes ces années sans lui, c'est du passé. Paris ne lui en veut pas trop. Alors le maître déroule une partition presque parfaite. L'Italien Lorenzo Sonego est renvoyé au vestiaire en un peu plus d'une heure et demie. Resté seul sur le court, Roger Federer, un peu ému, prend le temps de s'adresser aux 15 000 spectateurs.
J'étais bien crispé au début. Vous m'avez manqué, alors merci beaucoup pour l'accueil. C'était fabuleux. Merci mille fois.
Le public est ravi, le Suisse aussi, l'aventure parisienne continue. Ceux qui n'avaient pas de billets et qui ont donc raté l'épisode 1 de la série Federer à Paris sont rassurés. Il y aura bel et bien un deuxième épisode, ce sera mercredi après-midi.
Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Et puis le français Nicolas Mahut a battu en 5 manches l'italien Marco Cecchinato hier après-midi après avoir été mené 2-7 à 0. Je ne sais pas si vous avez vu Nikos, c'était un beau match.
Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu, mais bravo, vous n'avez rien dit sur Tsitsipas, je vois que...
Non, parce que je savais que vous alliez en rajouter.
Non, pas du tout.
J'ai préféré qu'on soit un peu sur la réserve pour une fois.
On en parlera à la fin de la semaine. Merci beaucoup David Decor, à demain 8h.
À demain.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour David, bonjour Audrey, bonjour à tous.
N'allez pas saluer non plus la régie. Bon, vous nous dites, le scrutin hier a démontré que la démocratie se portait bien en Europe, tellement bien que l'Europe risque d'être ingouvernable. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
La vraie surprise du scrutin, c'était la participation. Depuis que le Parlement a été élu, tous les 5 ans, les Européens se mobilisent un peu moins. Même les nouveaux venus se découragent très vite. Et pour la première fois, c'est le contraire. En France, par exemple, on est revenu 25 ans en arrière. Les Français, hier, ont voté autant qu'en 1994. Et on observe ce rebond chez nos voisins, où le scrutin n'était pas le troisième tour de la présidentielle, un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ou pour ou contre Marine Le Pen. En Allemagne, plus 11 points, pareil, plus 11 en Espagne, plus 13 en Hongrie, plus 15 en Pologne, etc. etc. Alors à quoi tient ce sursaut ? Peut-être que la crise de nerfs des Britanniques sur le pas de la porte, la campagne terroriste, le tintamarre des migrants aux frontières, le délitement de l'Occident depuis l'élection de Donald Trump, le cauchemar écologique, le risque économique qui grandit, ont réveillé les Européens. Peut-être qu'ils ont peur et conscience qu'ils ont quelque chose à perdre et qu'il ne suffit plus de hausser les épaules devant cette élection pour rire. En tout cas, si l'Union est en panne, la démocratie est vivante. L'autre événement sans précédent, c'est que les deux grands partis de la droite et de la gauche, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, n'ont plus à eux deux la majorité absolue. Le PPE, auxquels appartiennent les présidents actuels de la Commission, du Parlement, du Conseil, va devoir faire une cure d'humilité. Mmh. Et de son côté, le PSE subit une déroute. Le calvaire de la social-démocratie européenne continue.
Mais dans le nouveau Parlement, en fait, il n'y aura plus le tandem PPE-PSE qu'on connaît depuis des décennies, mais une sorte d'émiettement avec de nouveaux arrivés.
Oui, quatre forces vont s'articuler pour tenir les souverainistes en quarantaine et pour composer des majorités. La droite, la gauche, les écologistes et les libéraux de l'ALDE. C'est ce groupe centriste que vont investir les élus macronistes. Ils veulent macroter, c'est comme ça qu'on disait autrefois. C'est-à-dire servir d'intermédiaire, négocier leur soutien. C'est le retour du groupe charnière, la riche cuisine parlementaire comme on l'aimait sous la 4ème République. Alors la vie de couple, PSE-PPE, c'était déjà compliqué. À 4, on passe du boudoir au boulevard. Les rires peuvent se figer, mais la machine se paralyser. Normalement, la Commission propose une loi. Les eurodéputés la raturent, les États aussi bataillent dans leur coin. Et puis, le trilogue réunit la Commission, le Conseil et le Parlement pour produire le compromis final. Tout ça est très lent et très démocratique, mais l'émiettement produit des miettes. Elle risque de bloquer cette mécanique exemplaire, fragile et déjà à moitié grippée.
Merci Vincent Arouette pour l'édito international. Je retiens cette phrase, on passe du boudoir au boulevard, tant qu'on évite la farce. Je dirais, tout va bien.
C'est un peu scabreux quand même. Hein. Bonne journée à tous.
À vous aussi.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara, l'infatigable journaliste
bonjour,
politique.
Bonjour Nikos, bonjour
marathonienne.
À tous.
Vous recevez qui ce matin ?
Eh bien, il y a une semaine, elle clamait encore « on va gagner », mais finalement, elle a perdu. Elle n'a pas réussi à battre la liste Rassemblement National, mais a-t-elle quand même réussi à limiter la casse ? Nathalie Loiseau, qui portait la liste La République En Marche aux élections européennes, arrivée deuxième avec 22,5% des voix, sera mon invitée.
Avec plaisir, à tout de suite, on vous écoute.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h17, Nico Saliagas.
Et la nouvelle députée européenne, Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche, Renaissance aux élections. Et votre invitée, Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Alors l'objectif de votre campagne était de battre le Rassemblement National. Votre défaite est-elle votre échec personnel ?
Écoutez, c'est pas une très bonne nouvelle pour les Français parce que le Rassemblement National était en tête en 2014 sous un autre nom mais avec les mêmes idées. Il est à nouveau en tête cette année, même si il réussit moins bien qu'en 2014. Nous aurons le même nombre de sièges au Parlement européen, donc je considère que on a fait le boulot.
Alors vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Votre défaite est-elle votre échec personnel ?
Je réponds de la même manière, c'est pas très bon pour les Français parce que ça fait 5 ans que le Rassemblement National a fait le contraire à Strasbourg et à Bruxelles de ce qu'il prônait à Paris.
Vous n'y voyez pas un échec personnel ?
Vous savez, c'est une aventure collective dans laquelle toute la liste a été très impliquée, la majorité aussi, et puis c'est le choix des Français.
Donc c'est un échec collectif.
Je respecte le choix des Français. Je ne considère pas que ce soit un échec. Ça fait 2 ans que l'élection présidentielle a eu lieu. Au bout de 2 ans, nous avons fait la preuve que la République En Marche était un parti installé pour durer et pas un accident de l'histoire, que c'est un des partis de la jeunesse française, et donc c'est un parti d'avenir. Et de ce point de vue-là, là, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentateurs se sont trompés.
Alors, du mal à prononcer le mot défaite. Alors, votre victoire, c'est d'avoir évité la déroute ou c'est la victoire du président de la République ?
Mais écoutez, ni victoire, ni déroute, ni défaite, un bon score. Je vous rappelle que ça fait 6 mois que la France est dans une crise sociale dont elle sort à peine, qui a été une crise majeure. J'avais entendu une claque à Macron, la fessée à Macron. Rien de tout ça n'est arrivé.
Le président a-t-il aidé à limiter la casse ?
Le président a, je pense, contribué à une forte participation. Une forte participation à la fois pour lui et puis sans doute
et
aussi contre
lui. Aussi.
Mais écoutez, on est à moins d'un point et on a le même nombre de sièges que le Rassemblement National qui fait moins bien qu'en 2014. Je vous rappelle qu'en 2014, la majorité de l'époque faisait 14%. Je voudrais juste remettre 2-3 chiffres à leur place pour dire que quand on est à moins d'un point de différence du Rassemblement National, il n'y a pas à parler de défaite, il n'y a pas à parler de déroute.
En tout cas, vous dites le président a sûrement limité la casse, a sûrement aidé à limiter la casse.
Ce que je dis aussi, c'est que les partis dits traditionnels sont nulle part, ils sont en dessous de 10%. Ils nous ont expliqué pendant toute la campagne que nous avions installé un match. Ils ont eu l'air de penser que les Français n'étaient pas capables de se faire leur opinion tout seuls. La réalité, c'est qu'en France, comme ailleurs en Europe, les populistes et les progressistes sont à touche touche et que les partis traditionnels...
Les Républicains, les Socialistes, la France Insoumise.
Voilà,
maintenant.
Ils sont allés à l'élection avec autre chose en tête que l'Europe et ils se sont trompés, ça n'a pas plu aux Français.
Emmanuel Macron était en photo, Nathalie Loiseau, sur des affiches de campagne. À votre place, cette défaite, c'est donc aussi la sienne?
Écoutez, les affiches des panneaux électoraux étaient en photo, c'était la liste qui était en photo. En Marche a fait quelques affiches avec le président de la République, beaucoup moins, mais c'est normal. Il a soutenu la liste et la liste le soutenait et le soutient. Et nous allons soutenir son travail depuis le Parlement européen.
Mais c'est affiché, donc est-ce que cette défaite, c'est aussi un peu la sienne?
Mais ça n'est pas une défaite, donc vous ne me le ferez toujours pas dire.
Je sais que cette défaite est une victoire, en fait.
Mais je vous ai dit, ni défaite, ni victoire. On est à touche-touche, on fait beaucoup mieux que la plupart des majorités au moment des élections de mi-mandat. Ouvrez les yeux, regardez, changez de vocabulaire.
Alors, le Rassemblement National vient d'arriver en tête des élections, vous en convenez. Les Verts font
moins bien qu'en 2014.
Les Verts font une poussée remarquable. Ouais. Si le président écoute les Français, doit-il infléchir sa politique dans le sens du Rassemblement National ou des Verts ?
Alors certainement pas dans le sens du Rassemblement National, parce que si vous regardez, il y a une majorité de Français qui sont pro-européens, qui sont favorables à des réformes.
Il y a une majorité de Français qui ont voté pour le Rassemblement National.
C'est pas une majorité de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est 24%.
Qui arrive en tête.
Non, mais ce n'est pas une majorité de
Français. Parmi ceux qui ont voté.
Audrey Crespo.
Parmi ceux qui ont voté. Eh ben c'est bien l'Assemblée nationale qui arrive en tête. Vous n'allez pas me faire dire que c'est la République En Marche qui est arrivée en tête.
Mais je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis qu'il y a une majorité de pro-européens en France. Écoutez-le et entendez-le.
Donc, pas de ligne vers le Rassemblement national, vers les Verts.
Écoutez, sans doute. Ceux qui ont essayé de draguer le Rassemblement national, c'est les Républicains. Regardez le projet, regardez le programme. Et ben les Français, entre l'original et les copies, ils ont préféré l'original.
Est-ce que vous n'avez pas dragué les Verts en disant la priorité numéro un de notre liste, c'est l'écologie? Donc est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vous tourner un peu plus vers les Verts?
Mais
est-ce que le président ne doit pas infléchir sa politique?
On n'a pas dragué les Verts, on l'a dit depuis le début, c'est l'urgence. Moi, c'est la première chose que je vais faire au Parlement européen, c'est travailler sur l'urgence climatique. Et ce que le président a fait avec le Conseil de défense écologique, les mesures qu'il a prises, les décisions qu'il a prises, si ça n'est pas prendre en main l'urgence écologique, je ne sais pas ce que c'est.
Yannick Jadot estime que la crédibilité d'Emmanuel Macron sur l'écologie est nulle.
Yannick Jadot fait sa campagne et j'ai l'impression qu'il fait déjà la campagne de la présidentielle de 2022. Je le regrette, j'espère qu'il sera engagé au Parlement européen, j'espère qu'on pourra travailler avec lui.
Vous espérez que ce soit votre allié ?
Bien sûr.
Nathalie Loiseau, dans le fond, vous devez être un peu soulagée que cette campagne soit terminée. Faire campagne, c'était pas franchement votre truc, si ?
Bah écoutez, moi j'y ai pris goût. C'était ma première campagne, donc apprendre à nager au niveau national en sautant du plongeoir le plus haut, ça prouve qu'on sait nager à la fin. Je suis fière d'avoir emmené la liste là où
j'en ai. N'a pas eu l'impression de boire la tasse de temps en temps ?
J'ai su depuis le début que la majorité, et donc moi qui la représentais, serait la cible de toutes les oppositions. C'est ce que j'ai constaté. Le nombre de partis qui ont fait campagne contre, en n'ayant rien à proposer, je le savais, ça a été violent, j'ai montré que j'étais coriace. C'est un trait de caractère, c'est pas forcément une qualité, mais c'est comme ça que je suis fabriquée.
Quel a été le moment le plus dur de la campagne ?
Je regarde toujours devant, jamais derrière.
Il n'y a pas un moment qui vous a paru plus douloureux, plus pénible que les autres,
ni
non ?
Ni nostalgie, ni rancune.
Vos qualités de chef de campagne, en tout cas, ont été mises en cause. Vous avez été critiqué, même raillé. Comment, personnellement, vous l'avez vécu ?
Mépriser les hauts, repriser les bas. C'était la devise de Jacques Chirac, c'est la mienne.
Et ?
Ça glisse, comme l'eau sur la plume d'un oiseau, j'imagine.
Ça a toujours glissé, vraiment ?
Bien sûr. Bah, sinon, il ne faut pas faire de politique.
Hier soir, le président qu'on dit déçu, vous a-t-il fait des reproches ou vous a-t-il malgré tout félicité ?
Écoutez, ce que le président me dit reste entre le président et moi, mais il a été très en soutien du premier au dernier jour, y compris hier soir.
Et vous devez le voir aujourd'hui
ouais.
Avant de partir au Parlement ?
Avant de partir au Parlement européen, bien sûr.
Merci Nathalie Loiseau.
Merci.
C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, il est 8h24. À suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabral-Nicos.
On vous écoute, Laurent.
Qu'est-ce
qui se passe? Il n'est pas content.
Une semaine, non, si, je suis content.
Ah, ça y est.
Parce que la semaine débute en automne, mais elle va s'achever en plein été.
Alors là, maintenant, on est quasiment certain qu'à partir de vendredi, le beau temps va s'installer et puis que nous allons avoir des températures extrêmement élevées samedi et dimanche prochain. Donc vous voyez, ce qu'il vous reste à faire, comme c'est quand même un congé de l'Ascension, ça sera quand même assez super. Bon, alors revenons à notre journée. C'est l'automne quand même, aujourd'hui. Littoral de la Manche, toutes les régions qui bordent la Manche, le Nord, la Loire-Atlantique, la région parisienne, les Ardennes. L'humidité va s'échapper lentement. Les éclaircies vont revenir progressivement dans la matinée. Ça ira assez vite hein, pour que les éclaircies reviennent. Sur Paris, il faudra attendre quand même un début d'après-midi. Sur les pays de la Loire, la Champagne et le Poitou-Charentes, un après-midi agréable et lumineux. Là aussi, patience. Et puis des régions, nous conserverons des pluies. Oh, elles ne sont pas très élevées, elles ne sont pas très méchantes. Le Sud-Ouest, le Limousin, la Bourgogne, la Lorraine, quelques gouttes par-ci par-là. L'Alsace, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, des averses. Des averses orageuses sur la Côte d'Azur et la Corse. Et du vent sur le Languedoc, le Roussillon et la vallée du Rhône. Température maximale.
Allez-y.
17 à Saint-Brieuc, c'est pas mal ça. 18 à Toulouse et à La Marche dans les Vosges. 19 à Bourges, à Dijon, à Lorient, à Nevers, Limoges, Épinal. 20 degrés à Lille, à Cambrai, à Bordeaux, à Lens et Poitiers. 21 à Reims, Clermont-Ferrand, Paris et Torcy en Seine-et-Marne. 22 à Tours, 23 à Lyon, 24, même 27 à Marseille et 28 degrés à Nîmes. Vous voyez que ce sont des températures estivales pour certains d'entre nous. Mais l'été sera bien là en fin de semaine. Enfin.
Vous êtes bien, c'est Acteur Studio la semaine. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 27 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
0,9% d'écart entre la liste du Rassemblement National qui arrive en tête des européennes et celle de la majorité. Les deux partis auront le même nombre d'élus, 23. On a fait le boulot, a déclaré il y a quelques minutes sur notre antenne Nathalie Loiseau, la tête de la liste La République En Marche. Avec près de 14%, les Verts arrivent 3e et décrochent 13 sièges. On notera également la débâcle des Républicains aux Européennes, 8,4%. Certains réclament du changement. Valérie Pécresse a expliqué que si elle était à la place de Laurent Wauquiez, elle démissionnerait de la présidence du parti. Dans l'actualité également, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler a présenté un projet de fusion avec son homologue français, Renault. Objectif, construire le troisième groupe mondial du secteur. Roland Garros, victoire hier de Nicolas Mahut. Retour gagnant aussi pour le Suisse Roger Federer. À suivre aujourd'hui, notamment Raphaël Nadal, Novak Djokovic ou encore Serena Williams.
Europe 1. 8h30, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, évidemment, les élections européennes.
Et vos journaux cherchent la formule qui résumera le mieux les résultats de l'élection. Macron installe le duel avec Le Pen, titre Le Figaro. Idem pour Le Parisien aujourd'hui en France, qui place face à face les profils de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Le Big Bang continue. Tandis que le Télégramme parle de nouvelles donnes. Et puis vous avez les titres qui privilégient leur grand gagnant. Libération choisit Yannick Jadot. Et titre, la croissance verte. Les Échos estiment que Macron a presque gagné son pari. Le Courrier de l'Ouest parle de revanche pour le Rassemblement National. Quant à l'opinion, pour Nicolas Bétou, le vainqueur n'est pas celui qu'on croit. Le véritable succès du chef de l'État, c'est lui donc, c'est que la stratégie du vote utile a fonctionné. Elle a ravagé la droite républicaine et atomisé la gauche humiliée. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout le vote d'hier, confirme la recomposition politique de l'élection présidentielle avec d'un côté un parti de gouvernement et de l'autre une force de rejet sous le regard dépité de toutes les oppositions.
Sauf que la presse étrangère ne voit pas les choses comme ça.
Une défaite très personnelle, résume Courrier International. Le Pen prend sa revanche, écrit le quotidien autrichien Der Standard. Macron a perdu la partie, estime le journal argentin Clarine, un symbole qui risque de nuire à la crédibilité européenne du dirigeant français, poursuit le quotidien italien de centre-gauche La Repubblica. Une défaite lourde de sens pour El País, puisque le président français avait fait de l'élection une affaire personnelle. Mais il est une bérésina dont personne ne parle, c'est celle des sondeurs. À part Libération européenne, les sondages à la ramasse, ironise le quotidien. Les estimations des instituts de sondage n'avaient pas prévu le score d'Europe Écologie Les Verts, la déroute des Républicains, ni la participation en hausse. Ils ont mis cul par-dessus tête les prédictions de la totalité des instituts, dont il faut tout de même rappeler à leur décharge qu'ils ne prédisent disent rien du tout, mais se contentent de photographier l'opinion à un moment donné. Mais tout de même, note Le Quotidien, personne n'avait vu venir la percée verte. Les mêmes sondages n'avaient pas anticipé la déroute historique des Républicains, ni le sérieux revers de la liste France Insoumise. Et personne n'avait vu le PS exsangue faire jeu égal avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. De gauche à droite, conclut Libération, les perdants pourront se dire que les sondeurs ont eux aussi ce matin une sacrée gueule de bois.
Avec ses gagnants et ses perdants, l'actualité européenne continue.
Avec un mariage, un divorce et des euros. Le mariage, c'est celui des deux géants européens, Renault et Fiat Chrysler, qui veulent créer un Airbus de l'automobile, nous disent Les Échos et Ouest France. Ouest France qui nous annonce que le divorce, lui, sera plus simple en Irlande à l'issue du référendum qui a eu lieu en même temps que l'élection européenne. 82% des Irlandais se sont ainsi prononcés pour un assouplissement des règles de séparation. Enfin, les euros, ce sont les nouveaux billets de 100 et 200 euros à découvrir ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Mis en circulation demain, le 100 euros sera vert et jaune, le 200 euros sera bleu et marron. Le premier est tiré à 2,3 milliards de coupures, le second à 700 millions. Alors pourquoi de nouveaux billets ? Pour lutter contre les faux avec de nouvelles innovations technologiques pour dissuader la contrefaçon. Une autre innovation fait la une des pages loisirs du Figaro, sobrement titrée « Mon toutou est connecté ». Le Figaro dresse un panorama édifiant de ces technologies qui transforment une vie de chien en paradis numérique. Gamelle à reconnaissance faciale, collier Bluetooth anti-aboiement, litière auto-nettoyante, distributeur de nourriture programmable. Parmi les équipements en vogue, une enceinte connectée qui permet au maître de communiquer à distance avec le chien tout en lui livrant sa dose de croquettes. Évidemment, note Le Figaro, ces innovations en disent plus long sur le gâtisme des humains que sur les besoins réels des animaux et des chiens. Mais les 2,1% pas ridicules du parti animaliste aux élections d'hier confirment que le bien-être animal peut mobiliser l'électorat autant qu'il peut conduire les hommes à acheter n'importe quoi.
David Abiker, tous les jours dans la matinale d'Europe 1 pour la revue de presse. Merci David, à demain.
Il est 8h34, alors ça y est Nikos, le festival de Cannes c'est terminé. Place à un autre festival, celui de la petite balle jaune sur terre battue, Roland-Garros, si on en parle avec Corinne Boulou.
Europe 1, le journal de Roland-Garros.
Le festival de Cannes terminé, place au journal de Roland-Garros, vous l'avez dit. Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Roland-Garros a vibré hier pour sa première journée.
Vous l'entendez, Roger Federer a fait frissonner le public, effectivement, ravi de le retrouver 4 ans après sa dernière apparition sur le court Philippe Châtrier. Et cela s'est entendu. Le numéro 3 mondial n'a pas manqué ses retrouvailles avec la terre battue de Roland-Garros en renvoyant en 3-7 le jeune Italien Sonego à ses chères études. Et puis, je n'oublie pas le Grec Stefanos Tsitsipas, Nikos, 20 ans, 6e mondial, qui n'a pas perdu de temps sur le court Châtrier, qu'il découvrait, qualifié en 3-7 pour le deuxième tour. Oui, et ce sera face à un Bolivien.
Un Bolivien, la sensation de cette première journée, c'est du côté du nouveau cours Simone Mathieu, hein, que le public l'a eu. Il était là.
Oui, dans une ambiance de feu et un décor végétal, Nicolas Mahut, 253e mondial, a créé l'exploit en faisant plier l'Italien Cecchinato, demi-finaliste l'an passé, en 5-7 au terme d'un combat de plus de 3 heures. Et alors que l'Angevin de 37 ans, tiens, le même âge que Federer, était mené 2-7-0.
Et puis aujourd'hui, entrée en scène du tenant du titre et du numéro 1 mondial.
Oui, si Roger Federer leur a volé la vedette ces derniers jours, eh bien ils sont là. Rafael Nadal, l'Espagnol aux 11 Coupes des Mousquetaires et Novak Djokovic, le numéro 1 mondial qui, après un coup de moins bien dans la foulée de sa victoire à l'Open d'Australie, s'est remis en mode grand chelem, comme le confirme notre consultant Cédric Pioline, demi-finaliste en 98 à Roland-Garros.
Je crois qu'il y a peut-être son ego qui est un petit peu presque froissé, je dirais, touché, qu'on parle un peu plus de Federer et de Nadal. Mais aussi, de l'autre côté, il sait très bien que c'est voilà, il vient ici pour gagner, pour avoir un quatrième titre du Grand Chelem de suite. Ça serait la deuxième fois qu'il l'aurait après les années 2015-2016, donc à cheval. Et il sait bien que d'avoir un peu de tranquillité et de discrétion en début de tournoi, c'est pas mal. Ça sauve de l'énergie et on sait tous que 15 jours de compétition, c'est un format qui est assez long.
il faudra quand même qu'il se méfie de Hurkacz. Hein.
Oui, Hurkacz, c'est un joueur dangereux. Il va falloir en tout cas que le Serbe fasse un match sérieux, appliqué. Et je crois que son objectif, comme souvent dans un premier tour, sera de tuer l'espoir de son adversaire, qu'il ne se mette pas à croire qu'un exploit est possible ce jour-là.
Oui, le Polonais de 22 ans qui sera donc un bon test pour Djokovic. Nadal aura lui pour premier adversaire un Allemand, 180e mondial, issu des qualifications.
Et pour finir, chère Corinne, 13, il ne faut pas être superstitieux.
Non, c'est le nombre de Français en lice aujourd'hui, tiens, pour la suite de ce premier tour. Pauline Parmentier face à la numéro 4 mondiale. Il y aura aussi Alizé Cornet, Joe Wilfried Tsonga ou encore Richard Gasquet sur les courts.
Premier échange à partir de 11h ce matin, à suivre toutes les demi-heures sur notre antenne, et ce soir service Pioline à 19h40 pour faire le point de la journée avec notre consultant. C'était Corinne Boulot pour le journal de Roland Garros. Merci beaucoup, à demain.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
À suivre, Nicolas Canteloup, puisque Julie est déjà dans la place.
Oui, il arrive.
Je pense que ce matin, au lendemain de l'élection européenne, il va être remonté comme un coucou, le Canteloup. À tout de suite, bonne journée à tous, merci d'écouter Europe 1.
Et merci d'être là avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 8h38. Il est 8h39.
Il est là, l'oiseau. Enfin, l'oiseau Canteloup, pour nous parler des autres oiseaux et oiseaux de la politique. C'est plutôt le loup, tiens, ce matin. Julie et Canteloup, voici la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité.
Nathalie Loiseau, bonjour. Est-ce que cette défaite, c'est votre défaite personnelle, Nathalie Loiseau, dans ces élections européennes ?
En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Français, effectivement, parce que effectivement, nous savons à qui, entre quelle main est en train de l'Europe. En tout cas, c'est pas une très bonne nouvelle. Ce qui se passe, je trouve que c'est vraiment. Non, mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est une défaite personnelle ? C'est votre échec personnel ? Ah, je vous ai répondu. C'est pas une très bonne nouvelle. Non, mais je vous répète, réitère ma question. Est-ce que c'est votre échec personnel ? Non, mais c'est quoi ? C'est ni oui ni non, là ? J'ai répondu. Écoutez. Alors, est-ce que c'est la défaite personnelle d'Emmanuel Macron ?
C'est sûr qu'il ne nous a pas aidé, autre con. Ça a quelque chose d'affiche. Voilà, ça a rien changé. C'est moi, je crois que ça aurait été autre chose. Mais enfin, bon, bref, c'est pas le sujet.
Non, mais est-ce que. Alors, c'est pas une défaite ? C'est pas une victoire ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est autre chose. C'est pas une défaite, effectivement. C'est pas une victoire. C'est de finir ancien monde. Il faut changer de langage, madame, de concept, de vocabulaire, madame Crespo-Mara. C'est autre chose. C'est un nouveau concept. C'est le touche-touche. On est à touche-touche. Vous voyez, on est à touche-touche. Voilà, on est à touche-touche. On a sauvé les meubles. On a limité la case à touche-touche. Même vous, Europe 1, lorsque vous avez le sondage, vous pouvez dire je suis à touche-touche. Avec RTL, France Bleu Ardèche. Enfin, bon, touche-touche. Voilà.
Merci, madame Crespo-Mara. À vous, Julie.
Merci à toutes les deux. Allez, on reprend avec le titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous.
Ouais, excusez-moi, je finis mon... Pardon, j'ai été piégé à l'antenne, je finis mon sandwich à la madeleine au croissant.
Ah, il voit tout. Il voit tout.
C'est le régime grec, diététique pour le summer body pour cet été. Voilà, salut, bienvenue sur Europe One. Ça tombe très bien de s'appeler Europe. Europe,
ah bah
ce
oui.
matin, le lendemain d'une élection européenne, tous les 5 ans, finalement. C'est vrai, David, c'est vrai, mon cher Jean-Michel, c'est vrai, Céline, on colle à l'actu, on est dans l'actu, on est dedans, on est in. L'info surround, c'est l'énorme score des écolos. Waouh, bravo, ça y est, on va sauver la planète. Le climat est préservé, on a gagné le climat et là, on a gagné contre la pollution. Hein ? Non, pardon, on me dit non. Wendy Bouchard qui vient de rentrer dans le studio me dit que non, ça ne va rien changer. On va juste voir plus souvent la tête de Yannick Jadot à la télé. Voilà.
Ben voilà.
Ok, l'autre info surround, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a traité de Gilbert Connard de collard.
Oui, ou l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Hein, oui, c'est ça.
Ça marche dans les deux sens. Hier soir, donc, c'était sur TF1. Mais comme quoi, cher Jean-Michel Apathy, ça arrive aux politiques de dire la vérité. À toi, Julie.
Allez, on va accueillir la gagnante de cette élection. Bonjour, Marine Le Pen.
S'il vous plaît, madame Leclerc,
qu'est-ce qu'il y a?
S'il vous plaît, ça vous écorcherait la bouche de dire bonjour et félicitations, madame Le Pen. Ça vous écorcherait le bec de lièvre. Merci de m'accueillir comme il se doit, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous avez un devoir d'impartialité, n'est-ce pas? Et comme tout le monde fait la gueule, j'en déduis autour de ce studio, et j'en déduis, n'est-ce pas, qu'on ne se réjouit pas forcément de ma victoire. Oui, allez-y, vous pouvez me filmer, monsieur Aliagas.
Vous êtes
que ça à foutre. Vous pouvez me réjouir de ma victoire dans ce studio. Mais oui, ne vous en déplaise, madame, j'ai gagné.
Donc
on le fait, madame.
Très bien. Bonjour et félicitations, madame Le Pen.
Ah, merci de votre spontanéité. Et bonjour à tous et bonjour mon Nikos qui a cru en moi depuis le début.
Ah, je suis neutre.
Oui, bien sûr, nous le savons tous. C'est sympa cette soirée ensemble. J'ai gagné. Oh, qu'il est mal à l'aise. J'ai gagné l'Eurovision. Oui, mesdames, messieurs, je vais chercher un patriote. L'Eurovision, la politique. Dans le cube, il a la Sani.
Oh non.
Grâce à mon Jordan.
Oh là là.
Eh oui. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, Jordan. Mais il faudrait que ça avance un petit peu parce que j'ai une balle, mais elle est après. Donc...
On va écouter. On va écouter, madame Le Pen.
Ça arrive.
C'est je vais, je viens.
Oui, ça arrive, oui.
Je vais. Voilà. Je vais et je viens. Quel beau scrutin.
Oh, yeah. Bravo. Eh ben écoutez,
voilà,
ça suffit.
J'avais le coup d'attendre.
Non mais franchement, mais ça suffit cette bonne humeur là. C'est grave la montée des extrêmes en Europe, je suis désolée.
Oh, mon Jordan. Ma amoureuse, Jordan, mon bébé brune, c'est mon bébé chemise brune, je l'adore.
Oui, enfin bon, il n'y a pas d'exploit non plus. Hein. En 2014, vous êtes arrivé en tête avec 25%, là il fait seulement 23%.
Oui, seulement, écoutez madame Julie Maclaire, il est magnifique mon Jordan. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant de prendre un beau gosse. C'est vrai, dire que je me suis trimballé pendant des années, Florian Philippot et sa tête de porcinet, franchement.
Oh,
il suffisait de prendre le Jordan, le sublime Jordan. Jordan, c'est l'avenir.
Ah, ben c'est vrai qu'il est plus populaire que vous. Hein. Il faudra peut-être lui donner votre place aux prochaines présidentielles. Oh, la tête.
Non, mais pourquoi je pense celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ça va pas non plus de s'emballer sur Bardella. Je vous rappelle qu'il a juste battu Madame Loiseau. Hein. N'importe qui aurait pu le faire. Lui donner ma place. Non, mais elle est malade.
Bon, allez, on vous laisse. Merci, Marine Le Pen. Le score du Rassemblement National est évidemment un coup dur pour Emmanuel Macron. Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche, est avec nous. À nouveau, vous êtes restée.
Oui, on n'a pas changé les textes, donc je reviens.
Ah oui, zut, oui, on va sauter alors. Hein. D'accord.
Oui, on peut sauter. Nous voilà la vanne du touche-touche. Mais oui, on a fait les auditeurs, voyez-vous.
Alors,
vous
on accueille
le running gang, en fait, il faut se renouveler un petit peu dans le monde, tout de même.
On va accueillir Emmanuel Macron, ça vous va ça? Allez, bonjour Emmanuel Macron.
Nathalie est là? Elle est là, Nathalie. Nathalie!
Bon, non, mais elle est plus là.
Oui, bonjour madame Julie, Nathalie. Nathalie, j'ai un message pour toi.
Ah bah si, elle est là.
Voilà. C'est de la part de tout le gouvernement.
Non, mais vous êtes fou, quoi. Vous êtes pas bien, monsieur le président,
pardon,
à gifler comme ça.
Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dérapé. Ça soulage, hein, je ne vous le cache pas. Mais j'aurais dû... Désolé, Nathalie, cela dit, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis nul en tête de liste.
Bah non, on comprend pas, non.
Mais enfin, de toute façon, nous allions paumer. C'était écrit, c'était mort d'avance. Comme ça, là, au moins, je peux dire, c'est de la faute à Nathalie Loiseau.
Oui, enfin, concrètement, vous avez quand même perdu.
Enfin, pas d'analyse politique. Mais vous êtes piètre en analyse politique. J'ai gagné, madame Julie.
Bah non, vous avez perdu.
Mais non, mais j'ai gagné.
Bah non.
Mais si.
Bah non.
Mais si, mais regardez les autres. Le PS est à 6,5%. La droite à 8%. J'ai pas gagné là, en 2019, mais en 2022, c'est gagné.
Ah.
Si j'ai encore gagné, je vais me retrouver face à mes mères Le Pen, et comme d'hab, Union Nationale, tout ça, je vais gagner. Monsieur Apathy,
je confirme.
Je confirme, voilà.
On vous l'accorde.
Je n'avais pas le vert.
Ouais. Non, mais...
C'est rare que je n'ai pas le vert.
En tout cas, c'est une énorme déception pour la droite. Son candidat, François-Xavier Bellamy, n'a fait que 8%. Nadine Morano, j'imagine que vous êtes déçue, vous aussi. Hein.
Mais quel connard, ce philosophe de mes deux. Mais 8%. Mais vous savez ce qu'on dit quand on vient de se prendre une défaite dans la tronche? Il faut être philosophe. Eh ben ouais, mais tu l'es du con. Comme ça, tu t'es bien pris de mur. Ouais,
non, mais soyez pas trop dur. Soyez pas trop dur avec lui quand même.
Mais attends,
franchement.
Mais le gars, il a fait moins que Fillon à la présidentielle. Moins que Fillon. Fillon qui avait une casserole au cul. Hein, j'ai inversé. Fillon qui avait pas une casserole au cul, il avait carrément un magasin de Tefal. Voilà, bon, c'est ça qui vous fait rire, monsieur. Il a fait moins de copé en 2014, copé, l'homme le plus détesté de France. Vous savez quoi, Bellamy, il me dégoûte. Être le philosophe, être ou ne pas être, mais ne pas être du coup. Alors ça dégage, Mélanie.
Merci, Nadine Morano. Vous dégagez, vous aussi. Comment débriefe-t-on les européennes dans les autres matinales? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin.
La tête.
De la tête. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à mon collègue Apathy.
Bonjour.
Et bienvenue. Bienvenue sur RMC, Radio Marine Championne, RMC, vous le savez, nous tentons de rester toujours impartiaux. Ce sont juste les faits, Marine a gagné. Voilà, nous avons...
champagne.
Les gars, doucement avec le champagne, les gars, ça s'entend à l'antenne, s'il vous plaît, on coupe les micros. On accueille tout de suite un auditeur, il me semble que c'est... Attendez, je prends ma fiche, Christine, c'est mal écrit, oh là là. René, la bonne femme. René, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas eu, René. René, bien depuis la dernière émission, alors René, on sait votre talent pour décrypter de façon objective la politique. On aimerait votre regard sur cette élection européenne, René.
Ouais, salut Jacques. Ah. C'est bien simple, hier soir, c'était... C'était l'ouverture de la chasse. Pam pam dans le cul, l'oiseau. Hein.
Pam pam dans le cul, l'oiseau. C'est votre analyse à chaud, René. Quelque part, vous êtes un peu animaliste aussi, liste animaliste.
Ah, oui.
Vous êtes notre Jean-Michel Apathy dans la liste politique. L'image est jolie, mais René, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, à titre personnel?
Oh putain, Jean-Jacques, je te dire, c'est rare chez moi, mais... J'ai chialé comme un môme, Jacques. Ça m'a pas fait ça depuis la victoire de l'OM en 93. Avec le but de Basile Boli. Et tu sais quoi? Après le but de Basile, pendant 24 heures, j'ai même... Je vais te dire un truc, franchement. Hein, pendant 24 heures, j'ai même aimé les Noirs, tu vois.
Pendant 24 heures, j'ai même aimé les Noirs. C'est beau. C'est très beau ce que peut faire le sport. Ça peut faire exploser les préjugés racistes. Bon, juste 24 heures, mais c'est déjà samedi. Merci René, à vous Julie.
C'est la reprise de Roland Garros. On est en ligne avec le commentateur star du tournoi, Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel.
Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Michel, bonjour à toute votre équipe. Ici Lionel Chamoulot, en direct de... On dirait que de chez moi, puisque cette année, vous le savez, je suis à la retraite.
Ah.
Je vais tout de même commenter pour vous les matchs à la télé, notamment cette belle rencontre à laquelle j'assiste depuis mon canapé Cure Center. On aperçoit à l'instant ma femme en robe de chambre. Joli geste là de ma femme qui retire à l'instant ses bigoudis.
Non mais Lionel, on veut savoir qui joue là.
Très joli service. Merci ma chérie. C'est le service à café que je vais offrir à ta mère.
Lionel, mais qui joue? Vous regardez le tennis là à la télé. Qu'est-ce que vous disiez là?
Excusez-moi Julie, je reprends puisqu'on assiste à un très joli mouvement là de l'ancien numéro 13 mondial qui vient de servir face au dernier vainqueur du tournoi de Saint-Pierre-et-Miquelon et filet.
Mais filet de qui?
Filet de Merlan pour moi. Tu peux racheter des yaourts si tu peux. Il n'y en a plus à la framboise.
Merci. Non mais Lionel, on peut revenir au match? C'est qui joue là?
Pardon, excusez-moi cher Julie Leclerc, je reprends. C'est donc le Biélorusse qui va servir. Beau geste, là voilà, elle est bonne.
La balle de qui?
Non, pas la balle, non, la compagne de mon neveu qui accompagne ma femme à la poissonnerie.
Oh non.
Et voilà, Julie, le match est terminé. Un bel échange que nous avons eu là. Ça a fait plaisir de retrouver mes vieux réflexes. Ça vous paraît?
Et bravo au texte aussi, aux auteurs.
Évidemment, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian, Arnaud de Manche et Nicolas Canteloup, le roi de cette matinale, tous les matins, avec la revue de presse.
Ouais, vous, je suis king. King.
La reine, c'est le tour de la question. Ça commence à 9h jusqu'à 11h avec vous, Wendy Bouchard.
Bah oui, mais les analyses de Nicolas Canteloup vous manquez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va parler des Verts en première partie.
D'accord.
Troisième force du pays, première chez les jeunes, quatrième groupe d'influence au Parlement européen. Et c'est bien ce qui nous intéresse. Ce sont justement les compositions d'influence politique au Parlement pour faire passer de grandes directives en matière, notamment d'environnement. Selon vous, justement, l'Europe va-t-elle mieux nous protéger de ces fléaux pour le respect du vivant en général? Et puis à partir de 10h, Notre-Dame de Paris, un mois et demi après l'incendie, où en est le projet de restauration? Jean Nouvel, l'architecte, s'exprimait sur le sujet hier. On va donner la parole à de grands spécialistes. La modernité en la matière, c'est quoi? Gothique ou not gothique, hein? Oui. On en parlera. À tout de suite.
Il faudrait demander à Dominique Strauss-Kahn, vous êtes plutôt gothique ou not gothique?
Très gothique, monsieur Aga, vous le savez, en soirée, nous sommes très gothiques.
À tout à l'heure.
Wendy Bouchard attend vos appels dès maintenant au 3921 à suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale sur Europe 1. Il est 8h54. Il est 8h55, à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Monsieur Cabrol, 28 à Nîmes, vous nous avez dit tout à l'heure, ça c'est le max. Hein.
Oui, 28 à Nîmes et 27 à Marseille, 23 à Lyon, 22 à Tours, 20 degrés à Lille, 21 à Paris, 21 à Caen, non, 19 à Caen. D'accord. Et à Nevers, et 17 degrés à Saint-Brieuc. Chers amis, si vous habitez toutes les régions qui bordent la Manche, le Nord, la Loire-Atlantique, la région parisienne, les Ardennes, les Pays de la Loire, la Champagne et le Poitou-Charentes, vous êtes dans des régions où le temps va s'améliorer au fil des heures et où nous aurons un après-midi, ma foi, assez lumineux et même parfois agréable. Si vous habitez maintenant le sud-ouest, le Limousin, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la région Rhône-Alpes et l'Auvergne, vous êtes dans des secteurs où il y aura soit des petites pluies, soit des averses. Là, ce sera un petit peu moins réjouissant. Attention aux averses musclées sur la Côte d'Azur et la Corse. Attention au vent sur Languedoc, le Roussillon et la vallée du Rhône. Et je vous rappelle la nouvelle que nous confirmons. La fin de semaine sera estivale.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 27 mai, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. D'abord, le Rassemblement National, vainqueur des européennes avec un peu plus de 23% des voix. Il devance de moins d'un point La République En Marche. L'ambiance était à la fête hier soir à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, dans ce fief de militants de Marine Le Pen. Écoutez, c'était dans le journal de 7h.
Ah, oh, c'est super, un résultat formidable. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un barrage à Macron en général. Beaucoup de gens nous ont rejoints, alors qu'ils n'étaient pas forcément pour nous, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la meilleure des voies.
Les gens en ont plus que ras-le-bol de la politique nationale. Maintenant, au président Macron de se remettre en question également. Il n'a pas écouté son peuple, le peuple s'est exprimé. Il n'est plus crédible de toute façon.
Le parti de la majorité gouvernementale arrive donc en deuxième position, mais pour sa tête de liste et nouvelle députée européenne Nathalie Loiseau, il ne s'agit absolument pas d'une défaite. On l'écoute, elle était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara. Ça s'est passé à 8h15 sur Europe 1.
Je ne considère pas que ce soit un échec. Quand on est à moins d'un point de différence du Rassemblement National, il n'y a pas à parler de défaite, il n'y a pas à parler de déroute. Et on a le même nombre de sièges que le Rassemblement National. La réalité, c'est qu'en France, comme ailleurs en Europe, les populistes et les progressistes sont à touche-touche et que les partis traditionnels...
Les Républicains, les Socialistes, la France Insoumise.
Voilà, ils sont allés à l'élection avec autre chose en tête que l'Europe. Et ils se sont trompés, ça n'a pas plu aux Français.
En Europe, les populistes confirment leur poussée en France, mais aussi en Angleterre, en Italie ou en Hongrie. Pour autant, pas de raz-de-marée, comme ce que laissaient présager les sondages. Vont-ils réussir à s'unir? C'est la question. Peuvent-ils gêner ou bloquer les partis pro-européens? À 7h45, je recevais le politologue spécialiste des extrêmes droites européennes, Erwan Lecoeur. Voici son analyse.
Les sondeurs annonçaient cette vague. Il y a eu une mobilisation, on le voit avec la participation qui, depuis 25 ans, n'avait pas dépassé les 50%. L'Europe aujourd'hui reste très fortement menacée par les nationaux populistes qui sont quand même arrivés en force. Tant qu'il n'y aura pas un grand projet européen, elle est très menacée aujourd'hui en ce début du XXIe siècle.
Merci à tous de nous avoir suivis ce matin pour bien commencer la semaine ensemble au lendemain de l'élection européenne. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Prenez soin de vous. Tout de suite, Wendy Bouchard avec un numéro de téléphone.
Le 3921 pour vos appels, vos témoignages, vos réactions, les amis.
Pour participer à l'émission, le tour de la question, je vous laisse avec Julie et je vous dis à demain, Céline Dacosta.
Avec grand plaisir, Nico, c'est demain.
Bonne journée.